Bonjour les amis, on est de retour. On est de retour au salon de l'agriculture. T'as pas vu, mais j'ai fait un gros plan de nez, Joe. Regarde, t'étais pas là. C'est beau ? On est de retour au salon de l'agriculture. Hier, on a fait une jolie table ronde, enfin elle était rectangle, avec plein d'invités sur les céréales. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours du salon, mais avec un petit stream IRL. On a ressorti avec Joe la poussette de stream. La célèbre poussette de stream, elle est là, voilà. Elle embarque tout, elle embarque le Joe aux manettes, elle embarque la caméra, elle embarque le son, elle emporte la connexion. On a une belle petite équipe. Il y a Baptiste au son, ça va Baptiste ? Il y a Iris qui est en régie également, que vous connaissez. On est ensemble pour 3 heures avec un gros coup de projecteur sur les fruits et légumes frais. C'est la filière fruits et légumes frais qui nous permet d'organiser ce beau stream. Je suis au pied de la Tour Eiffel. Mais pas n'importe quelle tour Eiffel. La tour FL. Fruits et légumes. Tu l'as ? T'as capté ? Regarde. T'as vu ? Vous en pensez quoi de ma tour Eiffel ? Je vois un salut des agriculteurs. C'est moi où il a mis la veste sans manches ? Non, j'ai mis une veste avec manches. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vestes sans manches ici. Il a grandi. Regardez comme la tour Eiffel est petite à côté de lui. Oh, c'est trop chou. Vous la trouvez comment ? Elle est magnifique. Eh bien, c'est moi qui l'ai faite. Non, pas du tout. Non, il y a plein de professionnels passionnés ici, c'est incroyable. Alors, on a un stream IRL, on va se promener ce matin, pas mal autour de ce joli stand des fruits et légumes. Mais on va rencontrer surtout plein de gens et des passionnés. J'ai pu échanger avec eux depuis qu'on est arrivé avec Joe au petit matin à ce salon de l'agriculture. C'est fou parce qu'il est pas tard, il y a déjà plein de monde, c'est incroyable. Je sais pas à quelle heure ouvre le salon, vers 9h je pense. Oh, mais il y a la queue dès le matin, c'est incroyable. Je crois que sur l'ensemble de l'événement, il y a 600 000 personnes qui vont se presser ici, c'est fou quoi. Et donc, en arrivant tout ce matin, on a déjà rencontré les invités et je peux vous dire qu'on va se régaler. Ce sont tous des passionnés de cet univers. Vous voulez que je vous fasse un petit sommaire ? Qui veut un petit sommaire ? Qui veut un petit sommaire ? Levez la main ceux qui veulent un petit sommaire. Moi aussi je vous aime. C'est comme pour la revue de presse, il y a un petit sommaire. Que pour la bouffe ? Non, les visiteurs viennent pas que pour la bouffe. Mais effectivement, il y a à manger ici. Et la légende veut qu'il y ait une partie des visiteurs qui vient pour se restaurer et s'hydrater aussi. Parce que c'est très important de s'hydrater. C'est parti pour le sommaire ? Ok. Alors, là, on est à côté de la Tour Eiffel. Je vous parlais de ces fruits et légumes, parce que vous allez voir beaucoup de fruits et légumes mis en scène ici. Et sachez que tous sont redistribués à l'issue de la journée, aux banques alimentaires, notamment aux banques alimentaires d'Île-de-France, pour que ces fruits et légumes qui sont exposés pour nous faire saliver un petit peu, pour qu'ils soient pas perdus. Donc il y a aucun des fruits et légumes présentés ici n'a été maltraité déjà, et tous seront redistribués à l'issue de la journée à des associations, notamment aux banques alimentaires. Dans un instant, je vais vous emmener à un petit stand d'animation réflexe, voilà, autour de la thématique fruits et légumes. Bon, Samuel Etienne et les réflexes, c'est parfois un petit peu compliqué, mais on va commencer par un petit sourire. Ensuite, on rencontrera un garçon qui est formidable, qui s'appelle Benjamin Favalier, qui est producteur d'ail dans le sud de la France. Je l'ai rencontré tout à l'heure. Il sort d'un entraînement de vie de garçon, il est en pleine forme. Il est gentil comme tout. Moi, je raconte tout, Je leak. Il va se marier bientôt. Il est épuisé. Non, en vrai, il y a une belle histoire autour de l'ail. C'est la 4e génération d'agriculteurs et lui, c'est un fou d'ail. Voilà. Il y a plein d'idées reçues autour de l'ail. La laine, par exemple. Bon, on parlait ce matin avec lui, ça va être très, très drôle. Ensuite, on va aller à une démonstration culinaire. Voilà, peut-être autour de l'ail, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une soupe à l'ail qui est en préparation. Après, on ira voir un importateur, parce que la France est un pays exportateur de fruits et légumes, mais aussi importateur. Pourquoi ? Eh ben, c'est une question très importante. On en parlera avec Philippe Ponce. Ensuite, on ira dans une zone qui est juste derrière Joe, là, qui est la zone innovation. Voilà. Une zone où, en fait, où on verra qu'en matière de fruits et légumes, il y a beaucoup de recherches, de développement, d'innovation. Pourquoi ? Pour protéger les fruits et légumes, par exemple, pour trouver des nouvelles variétés. Mais notamment, oui, protéger notamment les fruits et légumes contre les nuisibles, contre les insectes, et en utilisant le moins de produits phytosanitaires possible, parce que c'est bon pour l'environnement, c'est là où on cherche des solutions qui peuvent parfois venir des insectes eux-mêmes. Ça, c'est assez passionnant. On en parlera avec Jean-Marc Gouachet, qui est directeur au CTIF, et Raïs Zriki, qui est ingénieur de recherche justement sur le sujet. La soupe à l'ail, c'est tellement bon, me dit l'eau. On verra tout à l'heure, j'espère qu'on va pouvoir goûter. Après, on aura rendez-vous avec Aurélie Racamier, qui est productrice de fruits, précisément de pêche, de nectarines et d'abricots. Je ne sais plus en quelle région on lui demandera, mais là aussi, il y a une belle histoire familiale autour de cette production. On ira faire du vélo, mais pas n'importe quel vélo. Le vélo smoothie. Hein, c'est un vélo qui fabrique des smoothies. C'est Boris Vian qui avait créé, je crois, un piano cocktail. Peut-être dans l'écume des jours, vous vérifierez. Mais là, nous aussi, on a un vélo smoothie. C'est pas tout. Après, on ira rencontrer un primeur. Voilà. Alors, c'est pas question pour un champion, mais c'est question au chat. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un primeur quand on parle d'une personne? Alors, quand on dit les primeurs, souvent, on dit les fruits et légumes frais. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un primeur quand on parle d'une personne? Est-ce que vous l'avez ou pas? Ouais, c'est Boris Vian, c'est ça? Ouais. Le pianoctel, exactement. Est-ce que vous... Oui, c'est quoi un primeur selon vous? Dites-moi, je sais qu'il y a un petit décalage de quelques secondes au niveau de... Non, vous savez pas? Moi, je l'ai découvert ici, hein, je savais pas. Vous savez pas? Non, c'est pas celui qui livre. C'est pas celui qui livre les... Non, c'est pas celui qui gagne des primes. Non. En fait, le primeur, c'est celui qui commercialise les fruits et légumes. Voilà, quand vous allez dans votre magasin de proximité qui vend des fruits et légumes, eh bien, le monsieur ou la dame qui va vous servir, c'est un primeur. Et en grande distribution également. Voilà. C'est celui qui vend des produits frais. C'est un petit peu ça. Un vendeur de fruits et légumes. Ilo, bravo. Moi, j'ai découvert ici, alors que j'en ai vendu un petit peu des fruits et légumes dans ma jeunesse, mais ceci est une autre histoire. Donc, j'étais primeur sans le savoir. Donc, avec Eric Fab, primeur, on va parler du métier. Par exemple, moi, j'ai découvert qu'il y avait des MOF, des meilleurs ouvriers de France en matière de primeur. Il y a des meilleurs ouvrières de France en matière de fruits et légumes. Ça, je ne le savais pas. Il y a un CAP aussi qui existe depuis pas très longtemps. Donc, c'est une filière qui est en train de se professionnaliser. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que on va parler de formation, on va parler d'emploi. Il y a une très belle émission surtout qui s'appelle MVP, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle d'emploi, de formation, d'orientation. Eh bien, on verra que dans ce secteur des fruits et légumes, il y a des carrières à faire, il y a des emplois. Et Eric Fabre, lui, par exemple, il est MOF, il est meilleur ouvrier de France, c'est un passionné. On pourrait littéralement faire l'émission avec lui pendant 3 heures. Mais évidemment, on ne pourra pas. Et on approchera doucement la fin de ce stream avec une dernière interview avec Chloé Piccoli, puisque je vous ai parlé des primeurs dans les commerces de détail. Le primeur, le fruit et légumes, c'est aussi dans la grande distribution. Et Chloé, justement, elle travaille dans la grande distribution et elle nous expliquera pourquoi elle a choisi ce secteur. En fait, elle adore les fruits et légumes, voilà, alors qu'elle a travaillé déjà dans d'autres secteurs. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Pas mal, non? Samuel, c'est un primeur de l'info, car c'est celui qui lit. Oh, parce que celle qui livre est toujours fraîche. C'est gentil. Ah oui, il y a le Prime aussi. N'hésitez pas à lâcher votre Prime, d'ailleurs. N'hésitez pas. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Il y a beaucoup de meilleurs ouvriers de France à partir du moment qu'il y a du monde et un diplôme. Ouais, sauf que le MOF chez les primeurs, tu verras, ben ça n'existe pas depuis très très longtemps. Joe, on va vers la petite épreuve d'habileté, là? C'est ça? Oh là là. On va commencer par un petit jeu parce qu'on aime bien sur Twitch jouer. Voilà, on va pas jouer aux jeux vidéo ce matin. Mais il y a une petite activité de réflexe, je crois. Alors, je suis pas sûr que ce soit à mon avantage. Autour des fruits et légumes, je vous emmène, on va découvrir ça. Venez. Je crois que c'est par là. J'espère que la place est libre. Donc là, on passe d'abord devant tout le stand qui est très très long. Là, il y a un stand culinaire. Je pense qu'on va faire une petite halte tout à l'heure. Un stand culinaire, il y a plein de choses en train de se préparer, notamment la fameuse soupe à l'ail dont je vous parlais. Et je pense qu'on ira faire un petit stop de ce côté. Ah bah là, il y a la soupe à l'ail. Bon, il faudra la goûter tout à l'heure, venez. Là, on va passer devant le vélo smoothie. Et on arrive à notre activité de réflexe. Ça va? Bonjour. C'est vous qui vous occupez du stand?
Oui, on aide, mais elle est là.
Ok, je vais faire un petit test.
Ouais.
Faire un petit test. Joe, je peux te poser ça ici? Tiens, juste le ça. Et, je suis là.
Ah.
Ça y est, on est lancé. Votre prénom, c'est
Marie.
Enchanté, Marie. Ça va? Est-ce qu'on peut donner un micro à Marie, peut-être? Ouais, on va échanger. Marie, c'est vous qui vous occupez de ce stand?
Oui, c'est moi.
Ça marche comment? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, du coup, c'est
c'est un petit duel de rapidité. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, c'est un petit duel de rapidité.
Ok.
Il faut toucher le plus de lumière possible quand elles apparaissent. Voilà.
Ah, donc il faut le faire à deux ?
Oui, il faut le faire à deux.
Il faut que je trouve un adversaire. Tu veux le faire, Joe ? Marie, elle est trop jeune. Attends, on le fait tous les deux. Marie, vous voulez être mon adversaire ou pas ?
Moi, je veux bien.
Et vous êtes rapide, non ?
Un petit peu, mais j'ai pas eu beaucoup d'entraînement non plus.
Vous jouez aux jeux vidéo ou pas, Marie, ou pas ?
Pas du tout.
Non, parce que ça développe les réflexes, ça.
Oui, mais alors moi, non.
C'est pas une gameuse.
Pas du tout.
Alors, les amis, je vous propose un défi. Samuel versus Marie. Voilà. Et on a un temps limité de combien de temps, alors ?
Alors, ça dure 45 secondes.
Bon, moi, 45 secondes. Vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Le duel. C'est l'heure du duel. Ils voulaient Samuel contre Joe Couille. Parce qu'il s'appelle Joe Couille.
Ah, ok.
Ouais, bah, c'est son petit nom. Ah, il voulait. Non, mais ce sera Marie. Ce sera Marie.
Eh bien, très bien.
Samuelou, parce que j'ai un nom japonais qui est Samuelou, mais peu importe.
Mesdames et messieurs, bonsoir. L'arrivée en live. Alors, en théorie, j'ai quoi ? J'ai 45 secondes, une minute ? Attendez. Là, il est concentré. C'est bon, on est entre nous, tout va bien se passer. J'ai à peu près 45 secondes pour vous informer de ce qui va réellement se passer. On est actuellement en live donc pour voir effectivement un jeu de réflexe, mais on a envie aujourd'hui d'aller voir ce qui se passe à la buvette, mesdames et messieurs. On est d'accord. Le retour de ce qui s'est passé à la PGW cette année, l'objectif, c'est de s'échapper quand Sam aura le dos tourné, littéralement par exemple, comme dans ce genre de situation, et d'aller se désaltérer ensemble, pour découvrir un peu ce que le terroir a de mieux à nous offrir. Donc je vous propose qu'on trouve ensemble le bon moment pour s'échapper. Et ensuite, nous passerons un moment pour se désaltérer, rencontrer la culture de nos producteurs, des produits régionaux, des produits frais finalement. Et j'espère que ça vous régalera. En tout cas, pour le moment, Sam, qui n'est qu'à 13 points, il a l'air d'être plutôt rapide, mais en fait, il a une bonne technique. Mais je ne sais pas, genre, est-ce qu'on y croit vraiment ? En fait, si c'est vraiment du coude à coude. Non. Donc gardez cette idée en tête. On se retrouve à la buvette, mesdames et messieurs. Je vais vous rendre Samuel.
Marie, on va commenter.
Alors, je me suis fait battre.
Non, je suis sûr que vous avez ralenti exprès.
Non, même pas.
Vous avez vu un moment. Je suis sûr que Marie a ralenti un moment pour me laisser gagner.
Non, promis, je ne vous ai pas.
Marie,
non, je vous promets vraiment. J'étais vraiment à fond.
C'est vrai ?
J'étais vraiment à fond.
Alors que c'est son stand. Hein. C'est son stand. Attendez, on va voir ce que le chat. Parce que comme on est sur Twitch, le chat, il commente, Marie. Vous connaissez
okay,
Twitch, Marie ?
Oui, je connais. Ouais.
C'est serré.
C'était allez, serré. Go.
Quel a été le meilleur score, Marie, là ?
Alors, le meilleur score depuis le début du salon, ça a été 172.
J'ai fait 44.
Non, 144, vous avez fait.
J'ai fait 144 ?
Oui, vous avez fait 144.
J'ai peur.
Non, vous avez fait 144.
172.
Oui, 172.
143, très beau duel, c'est vrai.
C'est vrai. C'était serré.
C'est pas mal. Bravo, Marie et Sam. Bah, c'est super.
Super.
T'as toujours eu un petit peu d'avant. Au début, je me trouvais très très lent par rapport à vous, Marie. Et en fait, ça m'a boosté. Je me suis dit.
Oui, c'est l'esprit de compétition, ça.
Bon. Ben, merci, Marie. Bon courage.
Ben,
vous animez ça toute la journée ?
Oui, toute la journée.
Waouh. Et de temps en temps, vous faites des duels ou pas ?
Ça m'arrive. Quand il y a des personnes seules, oui, ça m'arrive.
Magnifique duel. Bravo, Marie et Sam. Marie, un grand merci.
Ben, merci.
Bonne journée,
vous.
Prenez bien soin de vous et bon courage pour l'activité.
Merci beaucoup.
C'était pas mal, ça, hein ? T'as vu, il a des réflexes, le joueur de Valorant. Hein. Ouais. Joe, il veut pas tester ? Les gens, ils veulent, hein. Tu veux pas tester ? Là, maintenant ?
Non, mais vraiment ?
Contre qui ? Faut trouver un adversaire.
Contre toi.
Hein ?
Contre toi.
On a le temps ou pas ?
En vrai, on doit avoir une minute pour le faire. Genre.
Allez, Marie, je peux le refaire avec Joe ? Alors, les...
On met combien de subs ?
Hein ?
Combien de subs en jeu ?
Alors, combien de subs on lâche sur la chaîne de l'autre ?
Ouais.
Dis-moi.
10 subs ?
10 subs, ok. 10 subs. Si je gagne, Joe lâche 10 subs sur ma chaîne. Si Joe gagne, je lâche 10 subs sur sa chaîne. Ok ? Viens, Joe.
Coucou, c'est Iris qui va gagner. Allez, Joe ou Sam, lancez vos paris.
Alors pour le moment, on a à peu près le même score. Est-ce qu'il va y avoir une différence qui va se créer ou pas ?
C'est serré.
Ah, il y a une petite différence qui commence à se créer, en effet. Du côté du joueur rouge. Allez, on lâche rien jusqu'au bout. On a dépassé la barre descendante des deux côtés. Ah, ça monte. Mais à mon avis, la différence est déjà créée. Et bravo! 155 à 145, bravo!
Putain, j'ai amélioré mon...
Non. Ouais, si, d'un point.
Je viens de perdre 10 subs. Merci Marie.
Je vous en prie.
Ah oh, la vache, ça c'est la jeunesse. Ça. Tu m'as mis hein, combien? 10 points. Oh la vache. Bon moi je te dois 10 subs. D'ailleurs je te dois toujours une vandale je crois. Ah oh, la vache, j'aurais jamais dû accepter ce duel. C'est quoi les commentaires? Attends. La fin fut fatale. Ah c'est à la fin tu crois? Il tape des fruits innocents. J'avais pas vu. Il y a Lucky qui dit Joe, il veut battre Sam, ça se sent. Et Marie qui a commenté le match, c'est pas mal. Bon, c'était un bon échauffement, c'est un bon début de live. Il y a Diesel qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Donc merci Diesel. Du coup, j'ai mes 10 subs, je vais pouvoir les filer à Joe. Merci beaucoup, c'est hyper sympa. Je vois un bonjour du Québec à l'instant. J'ai cru voir un instant. Un Honda versus Honda sur Street Fighter. Si, Honda. Si. Mais si, c'est le sumo. Et si, et l'un de ses coups, c'est... Ouais, exactement. T'as failli débrancher le... Alors, les amis, étape suivante, je crois qu'on va avoir notre premier invité. Voilà, c'est Benjamin. Benjamin Favelli, il est producteur d'ail à Piolenc, je crois que c'est de Piolenc, c'est dans le Vaucluse. Vous allez voir, il est extraordinaire. On y va, Joe? C'est où? Vas-y, je te suis. Alors, le garçon est incroyable, c'est un passionné. Je crois que c'est la 4e génération d'agriculteurs du côté de Benjamin. Voilà. Bonjour. Il y avait des producteurs d'ail déjà dans sa famille. Et vraiment, on a discuté tout à l'heure, il adore son produit. Il est là, Benjamin. Ça va, Benjamin? Ça va? Alors, tiens, on va te donner un micro. Alors, c'est un micro, faut porter assez proche comme ça, tu vois, tu peux le poser sur ton menton. Ça permet en fait de se couper de tout le bruit extérieur.
Ok, d'accord. Ouais,
c'est comme ça qu'on a le meilleur son possible. Tu veux qu'on se mette. Viens, Benjamin. On se met là?
Allez. Voilà.
Et là, Benjamin, tu vois, c'est la fameuse poussette de stream. Uh-huh. En fait, c'est une poussette d'enfant sur laquelle on a accroché une caméra. Tu vois, tout le matériel pour le son, la connexion. Et ça permet à Joe de faire de jolis
super.
Plans.
Parfait, la poussette du stream.
T'as vu, c'est moi qui l'ai inventé. Hein.
Faut le breveter,
alors,
ça.
On l'a pas breveté, mais... Benjamin, tu vas bien?
Ouais, formidable.
Alors, formidable. J'ai dit, on va rencontrer un passionné, c'est vrai. Ah, toi, tu es producteur d'ail.
Oui.
Pas seulement, mais c'est ta production principale.
Exactement.
Toi, tu fais des tomates aussi?
Je fais de la tomate aussi, ouais. Tomate.
Mais l'ail, c'est ta production principale et c'est une passion, quoi.
Oui, une passion.
Comment on en arrive à être passionné d'ail?
Ah ben, ça vient de loin.
C'est une histoire familiale.
C'est une histoire familiale. 4 générations avant moi.
C'est fou.
Donc on produit de l'ail depuis plus de 40 ans sur l'exploitation.
Donc on est dans quelle région? On est à Piolenc.
On est à Piolenc, petit village.
Vaucluse.
Ouais, dans le Vaucluse, exactement, dans la vallée du Rhône, en Provence.
Je te mets le chat, tu sais, parce que sur Twitch, tu connais un peu Twitch ou pas?
Ouais, un petit peu.
Ouais. Les gens.
Ils vont avoir des petites questions peut-être.
Ouais, il va y avoir des questions. Il va y avoir. Déjà, on nous dit que le son est vraiment très très bon. Voilà. Donc cool. Bravo à Baptiste qui s'occupe du son. L'ail, c'est la vie. Maudit Dark Babar.
Oui, l'ail, c'est la vie. Ouais,
l'ail, c'est la vie.
Oui, c'est très bon pour la santé, l'ail.
C'est bon
l'ail,
pour
c'est
quoi,
la vitalité, circulation du sang.
Ouais.
Très bon pour tous les sportifs et même pas les sportifs.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est un énergie. Ça donne de l'énergie, circulation du sang et c'est un antiseptique aussi très bon.
Ah ouais?
Ouais, contre les virus et en ces périodes de froid.
Est-ce que toi, tu manges de l'ail au quotidien?
Oui, j'en mange et j'en mets beaucoup. Il faut que ça pique.
Et tu ressens les bénéfices dont tu parles sur la santé?
Ah ben. Ma grand-mère est venue quasiment centenaire. Hein.
C'est vrai?
Et oui.
Voilà. Donc tu veux dire que si moi je me mets... Il est pas trop tard.
Il n'y a peut-être
alors.
Pas que ça.
Il n'est pas trop tard.
Ça y est, je
fais. Tu parlais de l'ail comme fluidifiant du sang.
Oui.
Alors la légende de, tu sais, l'ail et les vampires.
L'ail et les vampires.
Ça vient de là en fait alors?
Eh ben, peut-être. Ou peut-être de son goût un petit peu relevé qui fait fuir les vampires, je sais pas.
Ouais. Et donc, puisqu'on parle du goût, tu sais que l'ail, c'est un légume.
Hein. Oui.
Mais c'est un légume qui, bon, personnellement, que moi j'adore, mais qui parfois souffre un petit peu de tu sais, de ces idées reçues sur son odeur.
Oui.
Et on dit quand on mange de l'ail, on sent l'ail de tout le corps après.
C'est vrai. Non, c'est pas vrai de, pas non, non, non. De la bouche.
De la bouche.
Oui, ça oui. Mais bon, même pour un dîner romantique, si on est deux à aimer l'ail, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Enfin, attends, parce que ça, c'est un vrai truc, ça. Moi, mon ouais. épouse, par exemple, on aime bien l'ail.
Ouais.
Mais quand on dîne tous les deux et qu'on voit un plat avec de l'ail qu'on adore, on se dit, ah ouais, mais il y a de l'ail, il y aura peut-être un bisou post-dîner.
Oui.
Tu vois, même entre époux, parce que le temps n'empêche pas la passion.
Exactement.
Oui, d'accord. Et on se dit, bah, on n'y va pas, quoi.
Eh ben, si c'est un plaisir partagé, oui. pour moi, il n'y a pas de mal.
Est-ce
hein.
que tu penses que l'ail qu'on vient de manger empêche de sentir l'ail du partenaire.
Oui, ça oui.
Ah.
Ah oui, je peux vous le confirmer par mon expérience personnelle avec ma...
Ça, à mon avis, c'est l'information la plus importante de ce stream ce matin. Vous êtes deux.
Voilà.
Vous êtes
voilà.
en amoureux. Voilà. Vous avez un dîner où vous faites à manger.
Oui, oui, oui.
Vous dites, je vais pas prendre d'ail parce que l'autre va sentir. Oui, vous oui. en mangez tous les deux.
Exactement.
Et vous sentez plus l'ail ouais. de l'autre.
Non.
Attends, on va regarder ce qu'on pense le chat. L'ail à deux, ça s'annule. Ah bah oui. Ah, il y a la légende de Aubéric qui dit qu'il faut manger un grain de café après.
Ah, ça je connaissais pas. Ça je connaissais pas. Le coup du grain de café.
Ah bah tiens, il y a une question qu'on va mettre
question,
de côté.
Ça, ouais. Ouais.
De quelle façon on cultive l'ail, on la met de côté. Très bonne ouais. question de qui. Attends, c'est en vert fluo, j'arrive pas à lire. Mais on va y revenir. Ouais. L'ail, c'est aussi un excellent répulsif anti-groupie. Ça, c'est autre chose.
C'est un autre problème.
Ouais. Si l'ail, c'est bon, c'est meilleur à deux. Tu t'enduis de Nutella ou de miel après le repas. Ok, d'accord.
Ouais.
Ça, okay, ça, c'est autre chose.
Bon.
Attends, donc, il y avait une question dans le chat, Benjamin.
Ouais.
Comment on cultive l'ail?
Oui. Alors, l'ail, on le cultive déjà beaucoup dans le sud de la France.
Oui, alors c'est toi qui me l'as appris, ça.
Oui, puisque l'ail c'est un légume qui est empreint de beaucoup de régionalisme.
Ouais.
En France, on a 7 signes officiels de qualité sur l'ail,
ouais.
avec chacun des petites spécificités régionales.
Et je crois qu'ils sont tous dans le sud.
Exactement.
Ça nous emmène oui. vers quelle région, par
alors,
exemple?
Essentiellement, le sud-est et le sud-ouest.
Ouais.
De l'ail dans la Garonne, dans la Lomagne, dans le Tarn, avec l'ail rose de Lautrec, qui est très connu. Dans l'Auvergne aussi, sur des climats un petit peu plus froids, mais toujours dans le sud de la France.
Ouais.
Et après, dans la vallée du Rhône, avec nos amis de Romois. Et enfin, à Piolenc, dans le sud de la vallée du Rhône, la Provence.
Dans le Vaucluse.
Voilà.
Et pourquoi le sud? Est-ce que c'est un légume qui a besoin de soleil?
Eh oui, c'est un légume qui tire ses origines, du coup, plutôt du Moyen-Orient. Donc, c'est un légume
ah
quand
oui
même de soleil.
Ouais, ah, là, il vient du Moyen-Orient?
Ouais, oui.
Ok, d'accord.
Oui. Voilà.
Et alors, donc, il faut du soleil?
Oui.
En terre, il faut quoi? Quel type de terre?
Ah, il faut des terres riches quand même. Hein. L'ail, c'est un légume qui aime la bonne terre. C'est ouais. pour ça. En fait, les bassins de production d'ail sont concentrés autour des fleuves. C'est des terres alluviales. Donc, la vallée de la Garonne, la vallée du Rhône.
C'est
des terres riches.
Ok, voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Et en termes de comment ça se cultive?
Alors, ça se cultive. Donc, on le plante à l'automne.
Ok.
On le plante à l'automne.
Donc là, il est planté chez toi?
Ouais, exactement. Il est en terre. Ouais. Je vous en ai ramené un petit échantillon qu'on a sorti du champ ici, qu'on regardera tout à l'heure.
Ouais.
Si tu veux.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et
donc on le plante à l'automne.
On le plante à l'automne. Il va tout doucement sortir de terre, grandir tout doucement l'hiver. Il va ressembler à un petit poireau. Il va se développer.
Okay.
Et après, sur la phase de printemps, c'est là où il va vraiment se développer. Il va y avoir une multiplication végétative parce qu'en fait, on plante la gousse de l'ail.
Ouais. Ah, c'est la gousse qu'on
plante. Oui, c'est la gousse qu'on plante. On la met et là, elle va se développer. Le germe qu'on voit des fois quand on ouvre un ail, c'est qu'il a commencé à germer. Il a okay. commencé à grandir. On le plante. Il va faire sa plante. Il va se diviser.
Okay.
Et ce n'est que du clonage.
Ok.
C'est
l'ail qui se clone lui-même.
Exactement. En fait. Vous achetez une gousse d'ail, vous achetez une tête d'ail, vous l'éclatez, vous prenez les gousses, vous la mettez et vous aurez plusieurs clones.
Attendez, ceux qui nous regardent par exemple, là, ils ont une gousse d'ail à la maison.
Oui.
Concrètement, hein, l'ail qu'on achète chez le primeur,
oui.
ils prennent une gousse d'ail, ils la plantent.
Oui.
S'ils s'en occupent bien, ils vont
récolter de l'ail.
C'est vrai?
Tout à fait. Ouais,
ils vont faire de la concurrence. Et est-ce que ça demande beaucoup de soins?
Oui, c'est quand même des cultures, oui. Alors, il y a ce côté très rustique de l'ail qui pousse en hiver. Mais oui, c'est quand même des cultures qui sont. Il faut bien s'en occuper, quoi.
Ouais.
Il faut les biner, aérer la terre.
Ah
il faut, oui. Oui.
Bon.
Et il faut un petit peu d'eau. Alors pas trop parce que ça subit pas les périodes de stress hydrique de l'été, puisqu'on va le récolter. Par contre, on n'a pas parlé de la récolte,
oui.
mais on va le récolter avant l'été. Pour les climats les plus précoces comme nous, dans Provence, plutôt à partir de fin avril, début mai.
Ok.
Et pour nos confrères les plus tardifs sur d'autres variétés, vers le 15 juillet.
D'accord. Voilà. Donc un peu d'eau mais pas trop.
Voilà, pas trop oui.
Du soin.
Ouais.
Du soleil.
Voilà.
Et ça nous donne
beaucoup
de
d'amour et voilà.
Alors moi je peux vous en parler rapidement mais vous savez que mon papa était poissonnier. Mon papa, il était aussi primeur, il avait ouvert des magasins de fruits et légumes. Et moi, j'en ai vendu quand j'étais jeune des fruits et légumes et j'aimais beaucoup d'ailleurs.
Ouais.
Et donc j'ai vendu de l'ail mais j'ai jamais vendu d'ail nouveau.
Ah oui.
Et par toi, j'ai découvert qu'il y avait de l'ail nouveau.
Oui.
C'est quoi l'ail nouveau?
Oui, alors l'ail nouveau. Donc c'est un peu notre spécialité, nous, à l'ail de Piolenc.
Ouais.
L'ail nouveau, c'est donc un ail que nous, on va récolter assez tôt. On va pas le sécher. Il est là, il est là.
On dirait un poireau.
Oui, parce qu'en fait, c'est la même famille. Que l'ail, le échalote et poireau, c'est la même famille.
Même famille.
Et oignon.
OK.
C'est la même famille. Donc ça, c'est un ail. Donc là, qui est pas, il a pas terminé sa croissance. Ouais. Là, on est au mois de février.
C'est un bébé.
C'est un bébé. Il va finir de se développer pour arriver après, du coup, à faire un bulbe comme ça. Et nous, on va pas le sécher.
Ça, c'est... Tiens, montre-le, Benjamin.
Ouais.
Ça, c'est la forme qu'on connaît bien.
Voilà, c'est ça.
Tiens, on va le donner à Joe. Tu le manges pas, hein, Joe, hein? Ça, c'est la forme qu'on connaît bien dans le commerce.
Voilà,
c'est la gousse d'ail. En fait, une gousse, non. La gousse, il y a plusieurs gousses là.
Oui.
C'est la tête.
C'est la tête. C'est la tête d'ail.
Et là, elle est séchée.
En fait, ouais, c'est ça.
Elle est séchée.
Exactement.
Et en fait, elle peut ne pas être séchée. Et c'est ce qu'on appelle l'ail primeur.
C'est ce qu'on appelle l'ail nouveau, l'ail vert.
Pardon, l'ail nouveau.
Ouais,
l'ail nouveau.
Ou ail frais. Et donc, c'est en gros ça qu'on va éplucher une fois qu'il aura formé sa tête.
Ouais.
On va retirer les feuilles superficielles afin d'enlever parce que là, il pousse au contact de la terre, hein. Donc il y aura un petit peu de terre autour. Et nous, producteurs, on va venir le nettoyer quand il aura fait sa tête. Et voilà, et vous aurez un produit très propre, très agréable. Voilà. Et alors, la spécificité de l'ail frais,
c'est qu'il est comment ? Est-ce qu'il est moins fort en goût ?
Il est très aromatique. En fait, le fait qu'on le sèche, on va retirer l'eau de l'ail. Et l'ail sec va concentrer les arômes une fois. Oui,
ouais,
on est qu'au début du cycle. Hein.
Ouais, on est
qu'au début.
Très...
Dans deux mois, ça sera incroyable.
C'est fou, hein.
Donc, okay. Donc effectivement, l'ail frais, on n'a pas encore concentré l'eau par le séchage. Donc ça, c'est un ail qui va concentrer, qui va avoir ce côté piquant, très
oui.
adapté, et avec des composés qui vont durer à la cuisson. Donc très adapté pour des cuissons de rôti, ouais. des choses comme ça, des longues cuissons.
Un peu lentes.
Voilà, exactement, qui vont durer. Il va conserver, celui-là va plus tenir. L'ail frais beaucoup plus adapté à une cuisine estivale, avec des cuissons rapides, des marinades pour des planchas, par exemple. Même en salade crue, hein, les vrais passionnés, l'ail frais peuvent le manger cru.
Ah ouais.
Et comme il n'a pas encore séché trop, concentré les arômes, il peut même se consommer en salade et il ne vous piquera pas.
C'est très bon ça. Voilà. Tiens, on va voir ce qu'en pense le chat.
Ouais.
Attendez, question au chat. Est-ce que vous connaissiez l'ail nouveau ? Parce que moi, je l'ai découvert ça. Je suis en maraîchage, me dit Bubu. Super cool à cuisiner, ça change. Tiens, l'ail nouveau,
ouais.
tu vois.
À l'omelette à l'ailier pour manger à Pâques. Là, on voit qu'il y a des connaisseurs.
C'est
là.
Quoi ça ? Bah, l'omelette
ça,
à l'ailier ?
C'est ça, l'ailier. En fait, l'ailier, on dit, c'est un ailier mature. Et ça, vous le mettez en omelette, c'est incroyable.
Mais attends, mais ça, je le trouve dans le commerce, moi, ça ?
Ça, c'est un peu dur à trouver.
Ah oui ?
C'est un peu un produit de niche.
Oui, il faut être un peu dans la région.
Mais il faut que les consommateurs demandent à leurs primeurs. Demandez-le à vos primeurs, demandez l'ail frais, l'ail nouveau, et ça arrivera.
Même Chouba me dit, c'est quoi la saison de l'ail ? Parce qu'en ce moment, les ailes au supermarché sont vraiment moches.
Et oui, il a raison.
C'est pas la saison, là.
Alors, c'est pas la saison. Là, on est sur des ailes de conservation.
Ah ouais, parce que, en fait, ton ail, toi, il va, le début de la récolte, tu m'as dit, c'était avril, je crois.
Avril, ouais, fin avril.
Ah ouais.
Fin avril, nous, on va faire de l'ail frais jusqu'au 15 juillet. Après, c'est nos collègues d'autres bassins de production qui vont faire des ailes séchées et eux ils vont arriver à le conserver. On progresse en France sur la conservation, on en a de plus en plus longtemps, mais là effectivement
c'est fou. Regarde. En fait, ce qui est fou dans un chat, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont avec nous. Oui. Il y a des gens parfois qui connaissent très bien le sujet. Par exemple, là on a Coben qui en produit,
oui. ouais,
voilà
ouais.
qui en produit de l'ail. Alors, est-ce que ça existe? Il y a Lamoun qui me parle de l'ail noir,
oui, l'ail noir, oui,
c'est quoi ça?
Alors, l'ail noir, c'est une méthode, c'est pas une variété d'ail, c'est une méthode de cuisson de l'ail qui nous provient d'Asie. C'est une méthode de cuisson de l'ail. On prend des ails blancs ou des ails violets qu'on va mettre dans une étuve pendant plusieurs jours en cuisson étanche.
Ok.
Ouais. Et il va confire en fait.
Incroyable.
Et le piquant de l'ail devient sucré dans ce processus.
C'est fou ça.
Et c'est considéré comme un super aliment en provenance d'Asie. Voilà.
Alors, j'ai un milliard de questions. Attends, je surveille. Moi, je peux passer 3 heures avec toi. Hein. Donc, Joe, je surveille l'horaire. Attends. Je peux rester encore avec Benjamin ? On est bien ou pas ? Encore ? Ah, super. Parce que tu vois, j'ai plein de questions, par exemple. Zut. Attends, j'ai perdu le chat. On y retourne. Voilà. Est-ce que congeler l'ail est déconseillé ?
Alors non, effectivement, pour revenir sur le problème de la conservation, ouais. l'ail, vous pouvez... Petite astuce du producteur.
Dis-moi.
Vous le pelez jusqu'à la dernière peau, juste à garder la dernière enveloppe autour de la gousse, et vous pouvez le mettre au congèle comme
c'est
ça. Ouais.
Ça va pas trop perdre en...
Ah ben...
Oui, un petit peu.
Mais c'est une solution de conservation.
Comment conserver l'ail ? On vient d'en parler. Alors, le chat est parfois blagueur. Mmh. Connaissez-vous l'ail mexicain, l'ail caramba ? J'ai pas la ref. L'ail caramba ?
L'ail caramba.
Ah ! Ok, merci. Ok. Et pourtant, c'est toi qui sors de l'intermonde de vie de garçon.
Oh, aïe, 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 aïe.
Félicitations.
Bah, merci.
C'est
ouais.
trop cool. Il y a une belle cérémonie qui arrive là bientôt, c'est ça ?
Oui.
L'enterrement s'est bien passé ?
Oui, ça va, oui. Très bien. C'était pas le plus dur.
Il y avait de l'ail ou pas ?
Non, il n'y avait pas d'ail.
Y avait pas d'ail. Alors,
on a un petit peu répondu à la question de la sur la culture tout à l'heure.
Je remonte le chat, tu vois. Qu'est-ce que tu utilises pour protéger ton œil?
Alors oui,
Alors, c'est Monsieur de Messmaker.
Ouais, ça c'est une vraie question. Donc l'œil, c'est un produit qui globalement nécessite pas trop de produits phytosanitaires.
Qui est assez protégé des insectes, en gros, c'est ça?
Oui, les insectes aujourd'hui, la plupart des œils sont sans insecticides. Ah, ça, on a, parce que forcément, de par son odeur naturelle, il repousse les insectes.
C'est super nouvelle, ça.
Oui.
Donc le producteur d'ail, il a pas besoin de trop de produits phytosanitaires.
Ouais, c'est des produits qui sont beaucoup moins traités que d'autres produits.
Ouais. Ah, mais c'est génial, ça.
Ouais.
D'accord. On utilise un peu quand même ou pas?
Ah, on est obligé. On a des maladies fongiques parce qu'il crée un petit peu les champignons. Et aujourd'hui, on se tourne énormément vers des solutions alternatives. Là, sur les dernières années, donc insecticides, ça, on a parlé de ça.
Ouais.
Le désherbage, l'herbicide, parce que nous, c'est un autre problème pour nous. Ça, on a super progressé avec les interpros de l'ail, l'interprofession. On est très accompagné par les marchands de matériel. On est énormément de binage dans les ails.
Okay.
Et nous, à Piolenc, en Vallée du Rhône, on met une bâche biodégradable par terre et on plante l'ail dedans. Et en fait, ça va couvrir le sol pour pas que l'herbe vienne pousser. Donc, nous, on n'a pas besoin de désherbage.
Incroyable.
Voilà, donc on progresse là-dessus.
Tu parlais de la menace fongique du champignon.
Ouais.
Là, il y a des méthodes alternatives qui commencent à apparaître ou pas?
Alors oui, l'ail, c'est une petite filière. Donc, on a des fois un petit peu de mal à se faire accompagner techniquement là-dessus. Mais on progresse. Ouais, il y a forcément des mesures prophylactiques, essayer d'allonger nos rotations culturales.
Ouais.
Voilà, essayer de mettre les ails dans des parcelles qui sont exposées pour avoir du vent, pour aérer, pour limiter le côté.
Alors, t'as plein de félicitations. T'as Beginner qui nous dit bravo pour le futur mariage. Attends, j'en ai une très bonne. Tu as Obéris qui demande s'il y aurait une pièce montée
au chou
aillé au mariage.
Ils sont blagueurs dans le chat.
Ah, c'est marrant, la conservation, ils en parlent beaucoup, hein, les gens. Alors, on a parlé de la congélation. Mais là, il y a la maison. Est-ce qu'on le conserve à température ambiante, enfin à l'air ambiant, au frigo ou au congèle? Qu'est-ce qui est le mieux?
Alors, pour vraiment conserver l'ail, le bon mode de conservation, trouver de l'ail tressé comme ça.
Pourquoi?
Parce que le fait qu'il y ait la fane avec, ça fait descendre la sève pendant le séchage à l'intérieur et il se conserve très bien. Et
donc on le pend.
C'est la méthode. Exactement, on le pend pour le conserver l'ail. Et nous, chez les producteurs, on a beaucoup de méthodes pour le sécher en le mettant suspendu. Et chez nous, les vieilles grand-mères en Provence, elles suspendaient leurs tresses d'ail pour les conserver le plus longtemps possible dans la cuisine, parce qu'il faut une pièce avec une température à peu près constante toute l'année.
Ok, mais ça, parce que là, ça sent pas là. Hein.
Et non, il a séché. Il a perdu ses composés volatiles qu'on a plus dans l'ail frais.
Parce que c'est par toi que j'ai appris que l'ail donc se séchait.
Ouais.
Et combien de temps?
À peu près un mois.
Un mois.
À peu près un mois pour le sécher. Ouais.
Dans des conditions particulières?
Oui, ben du coup pendant la période estivale, il faut quand même un peu de chaleur et un air assez sec pour le sécher dans des bonnes conditions.
À l'air libre ou pas?
Oui, à l'air libre. Ouais. Alors là, gardez-le au frigo ou dans la cuisine, mais surtout dans une température constante. Il faut pas qu'il y ait de variation de température.
Et pour ceux qui sont arrivés en retard sur le live, Benjamin nous rappelait l'intérêt de l'ail pour la santé, donc fluidité du sang.
Oui, exactement.
Excellent pour les sportifs.
Oui. Antibactérien.
Antibactérien.
Ouais.
Tu disais pour la longévité, il y avait un aspect très intéressant. Tu disais
que ma grand-mère a vécu très vieille avec
ça. Oui, mais aussi que du coup, ça avait un aspect j'ai oublié, mais un peu repousseur de maladies, quoi.
Ouais, oui. Ça prévient des virus, ouais, c'est antiseptique, là. Ouais.
Antiseptique,
exactement.
Bon, je vais m'y mettre. Mais alors le matin, comment j'intègre l'ail à mon petit déj, moi?
Ah, ceux qui aiment les œufs, hein, dans une petite omelette, hein.
Petite omelette
à l'ail, ça c'est petit déj de champion,
c'est
ça.
Vrai, là. Il faut y aller. Bon, écoute, je vais me mettre ça. Attends, t'as plein de remerciements.
Bon, merci le chat.
Voilà. Attends, il y avait vraiment un message pour toi. Oh, regarde, je vais te le retrouver. C'est sympa, on découvre plus dans la cuisine, oui. Est-ce que l'ail aide pour l'hypertension? Alors, je suis pas médecin, Benjamin non plus.
Bah, oui, pour la tension, oui, c'est un petit effet.
Bon.
Tout ce qui est sanguin, ça a un effet.
Voilà, j'avais Diesel qui disait bravo pour votre travail et votre passion, monsieur.
Merci.
Benjamin.
Juste un petit message pour les consommateurs qui nous regardent, les gens du chat.
Ouais.
Achetez de l'ail français, demandez-en. Il faut, même si vous allez dans des supermarchés direct producteurs, n'importe où.
Il est concurrencé, l'ail français, il y a des...
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Oui. On ne produit en France que la moitié de l'ail qu'on consomme.
D'accord.
Donc, autour de les consommateurs, ce qu'ils peuvent faire autour d'eux, demandez l'ail français à vos chefs de rayon, achetez-en. Quand vous voyez des labels qualité, AOP, IGP, de l'origine France, faites ce geste.
Ah ouais.
C'est très important pour nous. Nous, c'est notre vie pour qu'on puisse continuer nos métiers pour les générations.
Et ça veut dire que la filière, elle pourrait se développer en France si notre production ne participe qu'à la moitié de notre consommation. Ça veut dire que c'est une filière qui pourrait se développer en plus.
Il y a encore du potentiel de développement. Et ce potentiel, il va se faire chez les jeunes. Parce que l'ail, c'est un produit qui, malheureusement, est très assimilé aux seniors. Nos consommateurs sont les seniors. Et nous, on a besoin des jeunes.
Attendez, on va demander aux plus jeunes du chat. Les jeunes du chat,
ouais, les jeunes, est-ce que vous mangez de l'ail?
Est-ce que vous mangez de l'ail? On nous demande la date de la fête de l'ail à Piolenc.
Tu as 5 juillet.
Ouais, il l'a. Est-ce qu'il y a des moins de 30 ans qui mangent de l'ail ici?
Ouais.
Alors, il y a un petit décalage parce qu'il y a quelques secondes de décalage entre le moment où on s'exprime et le moment où les gens reçoivent la vidéo. Mais on va demander, on va faire un mini sondage. Pardon pour le chat, c'est vraiment qu'une bande de vieilles canailles, ouais. Bien sûr. Alors, ça y est, les réponses arrivent. J'ai 22 ans, j'en mange régulièrement. L'ail, c'est trop bon. L'ail, c'est banger. Oui, c'est excellent. Oui, dans le tzatziki bon. Tzatziki, il y en a de l'ail?
Je sais pas.
Si, peut-être. Carrément 21 ans. Oui, 27.
Ah, cool,
30
cool.
ans ici, ail à fond.
Ça fait plaisir.
23 ans, je me tabasse à l'ail. Merci, Benjamin.
Samuel, c'était merci top. Pour ton c'était temps.
Bravo, ouais. Bravo à toi pour tout ce que tu fais. Bon, on va se recroiser.
Ouais.
Mais merci du temps de ce matin. Bon salon à toi.
Ouais. Toi aussi, Samuel, bonne continuation.
Et puis plein de joie professionnelle et familiale parce qu'il y a de belles choses qui arrivent là.
Voilà.
Merci, Benjamin.
Allez, merci, Samuel.
À très vite. Je passe par là. On va où, là, Joe? Je vais déguster la soupe à l'ail. Hop, 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 hop. OK, let's go. Ça va, messieurs? Ça va? Bonjour à tous. Il paraît qu'il faut que je déguste la soupe à l'ail. Attendez, je peux poser ça ici? Ça vous dérange pas? C'est vous qui allez me faire goûter? Oh, attendez. C'est quoi votre prénom?
Frédéric.
Attendez, je vais vous donner le micro. Tenez, Frédéric. Donc, Frédéric est avec moi pour me faire goûter la soupe à l'ail.
Soupe à l'ail, voilà. Avec du bouillon de volaille, de la graisse au canard, et beaucoup d'ail, évidemment. Et du thym.
Graisse de canard, ail, le petit déj, quoi. Quelle heure il est? Ça va. C'est vous qui l'avez faite?
Non.
Frédéric?
Non,
qui a fait cette soupe?
Est-ce qu'on peut nous expliquer qui a fait
la soupe?
Alors, la soupe, le Touraine, c'est une des spécialités.
Comment ça s'appelle?
Le Touraine, oui.
Ça s'écrit comment?
T-O-U-R-I-N. Comment le prononce ça?
Vous connaissez le Touraine? T-O-U-R-I-N. C'est vous qui l'avez faite?
Non, alors là, c'est Sébastien qui a fait le
Touraine. Sébastien, c'est où qui avait fait le Touraine?
Ouais, alors, je m'en approprie les mérites, mais c'est pas spécialement à moi. Mais
c'est
bon,
c'est une spécialité de quelle région, le Touraine?
Sud-ouest.
Ouais.
Donc, Sud-ouest. Gers. Voilà, oui, on va dire ancien Midi-Pyrénées.
D'accord.
Voilà.
On est moins vers Roubaix que.
Oui.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Donc, ail, graisse.
Voilà, donc la base du Touraine, on va dire de ce Touraine, c'est un bouillon de volaille. C'est un bouillon de volaille avec de la graisse de canard, de l'ail, il y a de l'œuf dedans.
Il y a tout en fait dans le Touraine.
Thym, romarin, et voilà.
Mais c'est génial.
Que des bonnes choses.
Mais c'est pas mal du tout, attends. Mais ça se boit. Mais...
Non, mais c'est très doux.
C'est très doux.
Ouais. C'est très doux. Ouais. On ressent le goût de l'ail, mais pas. C'est doux, quoi.
Mais
c'est
moi,
doux.
Ça va rentrer dans ma routine du matin, moi.
Non, mais c'est très bon pour la santé.
Je vous propose de continuer, du coup, de la dégustation. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Mes invités, ils vont être contents ce matin.
Exactement.
Parce que moi, j'ai plein d'invités, moi, encore.
Il faudra en prendre pour le proposer, alors.
Qu'est-ce qu'on a là?
Alors là, vous avez de l'ail confit.
Ouais, là.
Ça c'est,
ça, c'est bon. Ça,
on peut l'accompagner ou bien en apéritif comme ça.
Laissez bien le micro sous votre bouche comme ça.
Ou bien toasté en apéritif ou en accompagnement de viande ou de terrine.
Ail confit.
Ouais,
incroyable ça.
Ail confit dans un mélange d'huile d'olive à tournesol.
C'est l'ail rose que je vois là.
C'est ça, c'est l'ail rose de l'Autrec.
C'est délicieux ça.
Ça permet de faire ressortir tout le parfum de l'ail avec ce petit côté confit.
Ah, mais c'est très bon ça. Benjamin, qui est producteur d'ail qu'on vient d'interviewer, m'a parlé de l'ail rose de l'Autrec.
Donc du coup, moi, je suis producteur. Et là, vous avez de l'olivaille qu'on appelle. C'est un mélange d'olive verte, de miel et d'ail. Alors ça, en apéritif, avec un petit blanc sec en terrasse, avec les cigales autour, c'est juste merveilleux.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça?
Petit blanc sec.
Un vin sec?
Un peu fruité.
Blanc.
Petit fruité, blanc. Acidulé, blanc. Et là, c'est juste merveilleux.
Vous n'avez pas une bouteille, là?
Attendez, on ouvre le frigo avec un peu de chance.
Et vous êtes producteur?
Oui, je suis producteur, comme tous mes collègues.
De cet ail rose là?
De celui-ci, oui.
C'est ça?
C'est ça.
Vous êtes où alors, l'exploitation?
Alors, mon exploitation, elle est dans le Tarn.
D'accord.
Parce qu'on produit de l'ail rose de l'Autrec dans le Tarn, en Occitanie.
C'est excellent ça.
À l'Autrec.
La soupe, elle est excellente. Joe, il faut que tu goûtes la soupe. Joe, est-ce qu'on peut faire un pour le monsieur là?
Bien sûr.
En plus, il m'a battu à un jeu, là. Il faut qu'il goûte aussi.
Mais c'est quoi, il va goûter les petits os aussi.
C'est quoi votre prénom?
Gaël.
Gaël, Gaël. Merci, ouais. Gaël. Allez, ça y est, j'ai faim. Un accent qui fait du bien. Voilà. Le Tourin. Banger, le Tourin, il y a des gens qui connaissent. Ça a l'air bon, c'est très bon.
C'est bon, c'est excellent. Donc, voilà. Si on pouvait vous le faire goûter en direct, ce serait bien aussi. Mais...
Ah, ce serait bien, ça. Je sens que le live au Salon de la Culture va être un rendez-vous annuel pour Samuel. C'est vrai que...
Et alors, l'avantage de l'ail, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu méconnu de la part de la plupart des gens, mais on peut le consommer de l'entrée, de l'apéritif jusqu'au dessert.
Alors, attendez. Alors là, on est sur l'apéritif, l'entrée, le dessert, par exemple.
Alors, le dessert,
Parce que là, il y a Gaël qui est en train de nous expliquer qu'on peut glisser de l'ail au dessert.
Alors, par chez nous, on a un chef qui s'est amusé à faire un cheesecake à l'Aigrosse de Lautrec.
Sérieux?
Et c'est juste bluffant, vraiment. Il a fait blanchir l'ail pour donner le goût au cheesecake. Et après, pour terminer, cheesecake. Sur le dessus, il a fait un ail comme on fait un fruit confit. Mais confit au sucre.
Et vous, vous l'avez goûté et c'est bon?
Ah, c'est succulent.
Et vous n'en avez pas, là?
Malheureusement, non.
Est-ce que vous aviez entendu parler du cheesecake à l'ail rose de Lautrec? C'est incroyable, ça.
Mais alors, l'ail de lui-même, en fait, est très sucré. C'est un condiment qui est très sucré. D'accord. Du coup, il a quand même une certaine douceur suivant comment il est cuisiné. Et on peut le travailler très facilement.
Il y a un chat qui dit « J'ai ajouté les ingrédients du Tourin à ma liste de courses. Je cuisine ça cette semaine. »
Parfait. Ben, pour démarrer un repas, c'est impeccable.
Et on nous regarde depuis l'Aveyron aussi. On nous fait un petit coucou de l'Aveyron.
Et on ne dit jamais assez que l'ail est excellent pour la santé aussi.
Bon, on a beaucoup parlé avec Benjamin. On a parlé des bienfaits de la santé. Vous savez, moi, je suis convaincu.
Vous savez qu'il y en a autour des productions d'ail qui tous les matins démarrent la journée avec un demi grain d'ail, une demi gousse pour commencer la journée.
Comme ça.
Et ils sont en pleine forme.
Cru. Avec le café.
C'est ça. Puis on peut considérer l'ail comme un produit dopant aussi. Autrefois, les athlètes en consommaient régulièrement. Non. Même les bâtisseurs en Égypte, les bâtisseurs des pyramides, avaient leur ration d'ail tous les matins.
Parce que c'était bon pour la santé et pour.
Parce que c'était bon pour la santé. C'est un
stimulant. Joe, t'as entendu ou pas? L'ail, excellent dopant naturel pour le sport.
En fait, l'ail...
T'aurais pas mangé de l'ail avant le match de tout à l'heure, toi?
Il a futé, quoi.
Ouais, et on nous regarde de Lautrec. Ouais, on nous salue depuis Lautrec.
Un petit coucou du salon, alors.
Et il y a même quelqu'un qui vient de copier-coller une recette. Voilà, qui est dans le chat, c'est Bob l'éponge.
Mais des recettes, nous en avons tellement à vous faire partager. Vous regardez sur tous les sites de tous les différents types d'ail de France, vous trouverez des recettes. Rien que là, vous avez une panna cotta aussi, à l'Aigrosse de Lautrec.
Une panna cotta?
Ouais.
Incroyable.
Là, mais là.
C'est fou ça.
Une panna cotta. On peut tout faire avec l'ail.
La panna cotta à l'ail.
On peut tout faire.
Donc en dessert. Gaël, vous êtes incroyable. Bon Gaël, un grand merci. Merci pour cette dégustation. Merci à tous. Bon salon.
Eh bien, merci à vous.
Amusez-vous
et
bien.
Bon salon également.
Je me régale moi. On va où Joe? Ok, je récupère ça. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci beaucoup. On va où nous? Alors attendez, je crois qu'on va aller retrouver maintenant peut-être Philippe Ponce. C'est Philippe Ponce? Merci Gaël.
Merci beaucoup.
Incroyable. Bonne journée. Incroyable. Alors l'ail en dessert, ça j'étais pas prêt. L'ail en dessert, Joe, j'étais pas prêt. T'es sur la soupe là?
Non, c'est sur la condition. Là.
Incroyable, hein?
Incroyable.
Il y a Oxay qui dit, j'imaginais pas que l'ail puisse être aussi utile. Est-ce que ça marche pour Valorant, le dopage à l'ail?
Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est 10
points. C'est la panna cotta, la panna cotta.
Oh, bien.
La panna cotta. J'adore. Ah, je crois qu'on a rendez-vous avec Philippe Ponce.
Il est
où,
toi,
Philippe?
Derrière toi.
On se met où? On se met là-bas? Ça va, Philippe?
Bonjour.
On y est. Philippe, donc ça, c'est des micros formidables qu'il faut mettre. Ils sont allumés. Plutôt près de la bouche, comme ça. Comme vous le faites.
Comme ça, là, c'est bon.
Comme vous le faites, c'est parfait. Ça va prendre
ouais.
Que notre voix et on n'entendra pas tous les autres. Vous allez bien?
Très, super.
Philippe Ponce. Alors, c'est marrant parce que des ponces, ça me fait penser au sport mécanique, moi.
Ah oui?
À la
Patrick
moto.
Ponce. Patrick
ouais.
Ponce.
Hein, c'est vrai, hein? Vous avez pas de.
Non. Pas, ça fait pas partie de la famille. J'aurais bien aimé d'ailleurs d'avoir une ascendance pareille.
Mais pour rester dans la famille de l'ail, vous êtes importateur. Importateur. Uniquement d'ail ou pas?
Ah ben non, pas du tout d'ail. Enfin, entre autres de l'ail.
Ouais.
Mais en fait, nous, les importateurs, nous sommes là pour abonder la gamme fruits et légumes qui est proposée aux consommateurs. Donc on importe du monde entier.
Mais pourtant, quand on pense à la France, on pense à un pays agricole. Et parfois, on peut se dire qu'on est ou on devrait être autosuffisant en la matière. Et pourtant, ce n'est pas le cas.
Et pourtant, nous sommes un pays tempéré. Donc, un pays tempéré, c'est un pays saisonnalisé. Donc, on a un hiver, un automne. Et pendant l'hiver, pendant l'automne, on ne produit pas certains des fruits que nous trouvons couramment pendant le printemps et l'été.
Comme par exemple, Philippe, lesquels ?
Par exemple, certaines variétés de poires, du kiwi, de la tomate dans les légumes, par exemple. Sont des fruits ou des légumes qui ont besoin de chaleur pour pousser. Et on n'en produit pas pendant notre hiver nord-européen.
Donc, on va les chercher ailleurs. Mais du coup, Philippe, alors ça je ne vais pas tellement dans votre sens, mais on nous dit souvent il faudrait manger plutôt des fruits et légumes de saison.
Alors certes, on peut décider de manger des fruits et légumes de saison, mais alors à ce moment-là, on se prive d'une palette de goûts, de saveurs et une palette variétale hors du commun. Parce que l'importation, c'est aussi tous les produits qui viennent des zones tropicales ou des zones méditerranéennes qu'on ne produit pas en France.
Ah oui.
On est bien content de manger des clémentines, des oranges, des ananas, des mangues, des avocats.
Oui, il y a les produits dont on manque parfois et il y a les produits qu'on n'a pas du tout.
La variété qui remplit nos assiettes, elle doit se nourrir de tous ces produits qu'on peut avoir très facilement avec la généralisation du. Notamment du transport maritime en conteneur, on peut avoir des produits dans d'excellentes conditions de disponibilité et d'excellentes conditions gustatives.
J'adore parce qu'il y a un débat dans le chat là en ce moment, tomate, fruits ou légumes.
Botaniquement, la tomate est un fruit.
C'est ça.
La manière dont on le consomme, c'est un légume. On peut dire autant de l'avocat, qui est un fruit, mais qui se consomme souvent en entrée ou mixé avec d'autres légumes.
Alors Philippe, je suis content que vous tranchiez ce débat parce que c'est un débat que je vois souvent. Et alors souvent, ça crée des polémiques lors des repas familiaux.
Non, mais il n'y a pas besoin de polémique. La seule polémique qui trouve sa recette dans l'assiette, c'est consommer plus de fruits et légumes. Voilà.
Donc fruits.
Ça coupe court à tous les légumes.
Mais tout le monde ne le sait pas. Tomate, fruits, botaniquement, mais il est classé, notamment au niveau
Il rentre dans la catégorie des légumes d'un point de vue consommation.
J'ai l'impression qu'on a la question pour un champion et qu'on est en train d'expliquer. L'importation, c'est aussi s'intéresser au goût, aux envies des consommateurs, notamment des Français.
Oui, alors on a vu ces 10 dernières années des produits se consommer de manière en progression importante parce que le goût plaît aux consommateurs.
On peut
citer certains exemples de produits dont la consommation s'est développée à vitesse grand V, tels que la mangue, l'avocat. Ouais. Bon, l'avocat, ça a démarré il y a plus longtemps. Plus proche de nous, l'évolution variétale dans les kiwis, où on connaissait que les kiwis à chair verte, maintenant on connaît le kiwi à chair jaune. Voilà, qui plaît beaucoup parce qu'il est un peu moins acide, un peu plus sucré que le kiwi vert. Donc tout ça contribue à l'élargissement variétal de la gamme qui est proposée.
Et est-ce que il y a un travail de veille aussi, c'est-à-dire est-ce que on invente des nouvelles variétés ? Est-ce qu'il y a des nouveaux fruits et légumes qui peuvent arriver sur le marché ? Il y a aussi ce travail-là ?
Alors, en fait, on a peut-être, vous l'évoquerez un peu plus loin dans ce format, mais on a toutes des équipes de chercheurs qui sont en France, mais également dans des programmes d'échange avec d'autres pays, qui veillent à faire évoluer les variétés. Alors, d'une part, pour qu'elles soient plus résistantes aux conditions climatiques. On parle souvent de réchauffement climatique, mais les variétés ont besoin de s'adapter. Voilà. Des variétés moins gourmandes en eau, des variétés qui ont besoin d'être moins traitées, donc plus autosuffisantes en matière de résistance aux maladies.
Phytosanitaires.
Voilà. Et puis des variétés, j'ai cité le cas du kiwi jaune par exemple, c'est l'illustration de nouveaux goûts et de nouveaux plaisirs pour l'ensemble des consommateurs.
Et donc on les propose et on voit si ça a du succès, si ça rencontre un... Oui, Joe ?
Oh non, mais... C'est bon, j'ai rapproché.
On entendait bien le monsieur, moi. Je trouve. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais il y a plusieurs questions. Pourquoi certaines variétés de pommes de terre disparaissent et d'autres apparaissent ? Et d'ailleurs, de façon générale, pourquoi on voit des variétés disparaître ?
Alors, l'évolution dans la recherche variétale des pommes de terre, elle a suivi surtout les modes de consommation. C'est-à-dire que si vous regardez auprès de vos détaillants ou sur le rayon du supermarché, on a souvent des pommes de terre qui sont destinées à un usage particulier pour les purées, pour les frites, pour les soupes, voilà. Et donc la recherche variétale va plutôt vers l'utilisation de certaines de ces l'utilisation des pommes de terre pour à des fins culinaires dédiées. Donc c'est pour ça qu'on voit année après année des variétés qui s'imposent et qui remplacent d'autres variétés.
Dans ma jeunesse,
même si dans le milieu des fruits et légumes, on en est aussi à la réhabilitation de certaines vieilles variétés oubliées qui reviennent. On peut parler du alors, en dehors des pommes de terre, mais dans les légumes, on peut parler des topinambours, des rutabaga, du panais, par exemple, qui étaient des légumes quasi oubliés et qui reviennent sur le vent de la scène parce que ça participe à la diversité des goûts et à la non-uniformisation pour le consommateur.
C'est curieux ça parce que moi je pensais à la binge, la pomme de terre.
Oui.
Moi j'ai beaucoup vendu sur les étals. Et on me dit que la binge par exemple on n'en trouve plus.
On n'en trouve quasiment plus parce qu'elle a été supplantée par d'autres variétés.
D'accord.
Qui sont. Alors souvent il faut trouver des variétés qui sont également productives pour le revenu du producteur, mais qui se conservent bien sur le temps et qui vont donner des qualités gustatives qui sont au moins aussi bonnes que la binge, voire meilleures.
Philippe,
c'est le cas avec des nouvelles variétés.
Je vous ai interrompu tout à l'heure, mais vous étiez en train de dire que on sait aujourd'hui, notamment pour des raisons de santé, il faut verdir notre assiette.
Oui.
Voilà. Ce mouvement, il est en train de se faire. Est-ce que les Français consomment plus de fruits et légumes qu'ils ne l'ont fait dans le passé?
Alors, la consommation des fruits et légumes, malheureusement, elle est stagnante, voire un peu déclinante.
Pourtant,
alors que les nutritionnistes nous disent. On mange encore trop de protéines en ration alimentaire moyenne et qu'il faudrait consommer plus de fibres et plus d'oligo-éléments, de petits nutriments. Et l'apport idéal pour cette consommation de fibres et de nutriments, c'est d'augmenter sa ration de fruits et légumes, crus, cuits, légumes, fruits, sur tous les modes. La consommation des fruits et légumes pour la santé, ce sont des bienfaits illimités.
Je suis un peu surpris parce que ces messages de prévention en termes de santé publique, ils existent depuis un moment. Et du coup, moi, j'en avais déduit que la consommation des fruits et légumes avait augmenté.
Eh bien, le fameux slogan 5 fruits et légumes par jour, qui est un slogan qu'il est facile de se remémorer, mais en fait, on pourrait être largement au-delà. En fait, il faut imaginer que dans notre assiette. La quantité contenue dans notre assiette, idéalement, elle devrait contenir plus de fruits et légumes et moins de protéines. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un déséquilibre que les nutritionnistes confirment de manière unanime.
Et est-ce que la notion de coût du produit intervient? Est-ce que vous pensez qu'une des raisons pour lesquelles les Français ne mangent pas encore assez de fruits et légumes, parfois, c'est une question de coût?
Alors, quand on mange de saison et quand on s'intéresse aux achats, on trouve du fruits et légumes de manière très étendue.
Ouais.
Et on peut très facilement constituer une assiette à moindre prix avec une variété sans égale.
Donc, si on fait la recherche, si on fait le petit effort, il y a moyen de trouver ça.
Oh là, facilement.
Philippe, un grand merci. Je vois
merci qu'on, à tous.
On doit enchaîner, c'est ça? Philippe, merci. Bon salon
merci,
à vous.
Merci
pour
aussi.
Tout. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, j'espère. Bon, ben voilà, les amis. Donc, c'est intéressant parce que moi, j'avais vraiment cette idée reçue que la consommation de fruits et légumes des Français avait vraiment radicalement augmenté ces dernières années. Et manifestement, c'est pas le cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vanita me dit, les Français bouffent encore majoritairement du Nutella, de la viande et du coca pour faire passer le tout. Factuel, me dit Queen Yaman, oui, c'est vrai. On mange plus de viande qu'on n'en a jamais mangé dans l'histoire. Alors moi, je suis très étonné de ça. J'avoue que ça me donne envie de faire des recherches parce que j'avais vraiment présupposé que la consommation de viande, de protéines de façon générale, mais de viande en particulier, avait beaucoup baissé en France. Alors ça, je ne sais pas si quelqu'un a des stats ou des chiffres là-dessus, mais je suis un petit peu surpris en fait. Ouais. Ok. Étonnant. Joe, la suite? On va dans l'espace innovation. Alors là, on va dans un espace incroyable. Sur ce stand des fruits et légumes frais au sein de l'agriculture, là, on est dans le hall 2.2 si jamais vous passez par là. Eh bien, il y a un espace innovation, un espace verger, mais surtout innovation, qui fait le point un petit peu sur la recherche, sur le développement en matière de fruits et légumes, notamment pour protéger les fruits et légumes, les productions, en utilisant le moins de produits phytosanitaires possible. C'est assez intéressant, c'est un très bel espace. Voilà. Je vous emmène. C'est par là. Hein, sur la consommation de viande, par exemple, il y a le roi Burgonde qui me dit que la consommation de porc a diminué en France, mais celle de poulet a augmenté. Ok. Alors, on est devant cet espace, les amis. Voilà. Et il y a Jean-Marc qui est avec nous. Jean-Marc Gouachet. Ça va, Jean-Marc?
Ça va très bien.
Là, vous avez un micro. Voilà. Alors, vous savez que vous tenez votre micro parfaitement.
Oui.
C'est le meilleur endroit pour qu'on soit bien entendu.
Parfait.
Jean-Marc, ça va?
Ça va très bien. Merci.
Jean-Marc, vous êtes directeur de la communication au CTIF.
Du CTIFL.
Alors, c'est quoi le CTIF?
Donc, le CTIFL, c'est le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.
OK.
C'est en fait le centre qui s'occupe de la R&D, de l'innovation pour la filière française des fruits et légumes.
Donc, recherche et développement pour Exactement. La filière fruits et légumes?
Voilà. Donc, on accompagne la filière dans l'adaptation au changement climatique. Ouais. Toutes les transitions, par exemple, la fin de l'usage des pesticides ou des insecticides. On cherche des solutions pour aider les producteurs à continuer à, eh bien, à nous
c'est génial.
Produire des pommes, les abricots, tous les légumes que nous aimons manger.
Donc, quand je dis que ben, c'est une filière où il y a des emplois et où il y a des postes à prendre, il y a, notamment en termes de recherche.
Exactement.
Et de postes d'ingénieurs, de chercheurs.
On recrute régulièrement des techniciens, des ingénieurs, hommes et femmes. Donc, il y a vraiment de quoi faire. L'environnement nous présente énormément d'enjeux.
C'est super. Et là, dans ce petit parcours qui est créé ici,
oui.
qu'est-ce qu'on va trouver alors? Des exemples de programmes de recherche?
Voilà. En fait, dans le parcours qu'on propose aux visiteurs du Salon de l'Agriculture, on leur montre comment on va s'adapter aux transitions que connaît le monde agricole aujourd'hui.
C'est super.
Et plus particulièrement pour les fruits et légumes.
Qu'est-ce qu'on, par exemple, on peut regarder.
On peut rentrer.
On va vous montrer. En fait, il y a plein d'exemples qui sont assez passionnants. Moi, je suis passé tout à l'heure là, de ce que peut donner la recherche en matière de fruits et légumes bah, pour aider l'agriculteur à affronter les défis des changements climatiques et
ça.
De la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires.
Transition agroécologique. Comment, à quoi va ressembler le monde de l'agriculture de demain?
Jean-Marc, on commence par quoi, par exemple?
Eh bien, on peut commencer par ici, si vous voulez. Donc, typiquement, là, on a on présente des outils de stations météo
ouais.
qui permettent donc de récupérer des informations sur l'évolution climatique. Alors, il faut le savoir qu'aujourd'hui, on a des phénomènes climatiques qui sont plus impressionnants, plus importants que par le passé. Ouais. Des phénomènes de grêle.
Ils sont plus violents.
Voilà. Ouais. Des phénomènes de sécheresse, des phénomènes d'inondation, de pluie beaucoup plus importants, ce qui a une incidence directe par rapport à la manière de cultiver.
Parce que vous avez raison de le rappeler, les changements climatiques, ça n'est pas que du réchauffement climatique, c'est aussi des aléas météo qui sont plus fréquents et plus violents qu'avant, quoi.
Exactement. Par exemple, en arboriculture, aujourd'hui, on peut subir des gels précoces, donc ou des gels tardifs.
Plus donc, qu'avant.
Comment?
Plus qu'avant.
Beaucoup plus qu'avant. Et un gel tardif, si le gel arrive alors que la floraison a déjà eu lieu, ou si l'arbre a commencé à produire son fruit...
Ça peut être une catastrophe, ça.
Ça peut être une catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait, ça va tuer le fruit, alors qu'il sera tout petit, hein, mais finalement, il n'y aura pas de pommes ou il n'y aura pas d'abricots. Donc oui, c'est important de pouvoir anticiper et apporter des solutions.
Alors cet outil, justement, il va nous permettre d'anticiper, c'est ça?
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est?
Donc en fait, c'est un outil qui permet donc de capter de la donnée et de permettre à l'agriculteur de prendre les décisions au bon moment en fonction des informations qu'ils ont eues.
Là, ce sont quoi? Des capteurs, c'est ça?
Voilà, ce sont des capteurs météo, des capteurs de pluviométrie. Donc, il y a différents types de capteurs au niveau de la température notamment. Et à partir de ces informations-là, les ingénieurs du CTIFL modélisent et donc prévoient des situations et en fonction des situations, apportent des solutions, des actions à mener, des décisions à prendre pour l'agriculteur de se dire, bah tiens, je vois qu'il va y avoir une hausse des températures.
Oui.
Ça serait peut-être bien que je pense à couvrir le verger parce que potentiellement, il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir des orages. Et donc, il faut anticiper. Ou on peut aussi imaginer, et c'est ce que l'on voit par exemple sur la maquette qui est ici.
Ouais.
Voilà, sur cette maquette ici.
Là, on voit ça ressemble à une serre, mais ce n'est pas une serre.
Alors, ici, en fait, c'est un verger. C'est un verger qui, traditionnellement, le verger, on se dit, bon, ben, le verger, il est ouvert de part et d'autre.
Oui. On peut couvrir le verger?
Avec la hausse des températures, ouais. on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'insectes qu'auparavant, qu'on appelle des bioagresseurs. Ouais. Ni plus ni moins, des insectes qui vont venir, en fait, attaquer les cultures, que ce soit les plants ou que ce soit les fruits ou les légumes. Là, en l'occurrence, on est dans le cadre d'un verger et on a décidé de clore le verger pour limiter le nombre d'insectes qui pourraient rentrer sur le verger, sur des cultures de cerises, par exemple. Et donc, du coup, on met des filets qu'on appelle des filets insect-proof, c'est-à-dire bah, lutter contre les insectes.
Il y a waterproof et il y a insect-proof.
Et le waterproof, Samuel, il est juste dessus.
Oui.
Il est juste dessus pour soit faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau, donc de pluie, qui tombe sur les fruits,
ouais,
sur les pommes par exemple, ou également, ça peut être ici, des filets anti-grêle.
Mais ça, en fait, est-ce qu'on le fait sur toute la durée de la culture ou est-ce qu'on l'installe pour des moments bien précis?
Eh bien, ça, c'est une infrastructure qui demande du temps en termes d'installation,
ah ouais,
qui représente un réel investissement.
Et oui, dans le chat, ils le disent, il y a un coût aussi.
Exactement. Donc, ah oui, ça représente un véritable coût pour l'arboriculteur. Et donc, du coup, une fois que ça s'est installé, le verger reste couvert.
D'accord.
Donc, vous avez des vergers qui sont couverts, d'autres qui ne sont pas couverts.
Et ça, on commence à voir apparaître ça en France.
Oui, tout à fait.
Mais ça demande un investissement.
C'est un investissement assez conséquent.
Ouais.
Je pourrais vous donner l'information. On a l'ingénieur ici qui travaille sur ce sujet-là,
ouais,
qui pourrait vous dire exactement combien ça coûte en termes d'investissement à l'hectare d'installer ce type de dispositif. Et c'est des dispositifs de plus en plus courants qu'on verra de plus en plus dans nos campagnes. Puisque, par exemple, pour lutter contre Drosophila suzuki...
Oui, c'est une mouche dont on va parler tout à l'heure. Ouais.
Exactement. Eh bien, ça va être une combinaison de solutions qui vont permettre de lutter contre Drosophila suzuki. Et le fait de mettre le verger sous cloche, c'est une des solutions que l'on apporte aujourd'hui à la profession des arboriculteurs et entre autres des producteurs de
solutions
cerises.
Environnementales, parce que qui dit protection, on va dire physique, mécanique contre les insectes, par exemple, ben, moins de produits chimiques pour s'en préserver.
Eh bien, complètement, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les producteurs de cerises, par exemple, mais pas que, mais les producteurs de cerises se voient retirer des produits phytosanitaires.
Ouais.
Donc, soit les produits sont retirés, soit il y a encore des menaces de retrait,
ouais,
des produits phytosanitaires pour ben, produire de façon plus propre, également dans une dynamique de respect de l'environnement. Et du coup, ils se retrouvent sans solution de protection donc des cerisiers. Donc, nous, notre travail consiste à apporter des solutions alternatives pour répondre à ce retrait de solutions qui auparavant protégeaient les cerisiers. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les protéger avec des solutions naturelles ou des solutions alternatives. Donc, on utilise des produits de biocontrôle ou des solutions mécaniques comme celle-ci.
Alors, du coup, ça pique la curiosité du chat qui se demande en termes de soleil et de gestion de l'eau. Parce qu'une fois que c'est couvert, bon, bah, c'est couvert.
Oui.
Le dispositif laisse la lumière passer. Laisse l'eau passer aussi, on peut la réguler.
Alors, c'est une excellente question, Samuel.
Ça protège, là.
Il faut savoir que les filets insect-proof qui sont mis sur les côtés,
oui,
ne seront pas ouverts.
D'accord.
Ça, une fois que c'est installé, il y a des portes. Donc, c'est un espace clos. En revanche, sur le dessus, il peut y avoir des ouvrants qui vont s'ouvrir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'accumulation de chaleur à l'intérieur.
Bien sûr.
Qu'il puisse également y avoir un peu plus de lumière. Donc, on va travailler sur la maille du filet, que ce soit une maille qui permette de laisser passer la lumière.
Mais pas les insectes.
Mais pas les insectes. Et puis également, il faut savoir que lorsqu'il pleut, eh bien, il va y avoir un effet de brumisation à l'intérieur du verger, ce qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait déjà, ça serait une alimentation en eau, en fait, indirecte du verger, qui aussi, pour le coup, consommera aussi moins d'eau.
C'est génial.
Ce qui sera aussi plus vertueux, parce qu'un des enjeux d'avenir par rapport à l'adaptation au changement climatique, ça va être la gestion de l'eau. Donc là aussi, on a une solution qui est assez intéressante par rapport à ça.
Et cet outil, on l'appelle comment ?
Eh bien, ça, c'est un verger...
clos.
C'est un verger clos,
un
exactement.
Verger clos. Bon, je crois que je pourrais passer 3 heures sur uniquement le verger clos, mais je crois qu'il y a d'autres choses à voir.
Oui.
Je vous emmène.
Alors
là, moi, ça m'intrigue beaucoup, là. On a un... Alors, le mot est barbare.
Un dendromètre. Un dendromètre.
Alors, qu'est-ce que c'est ? On voit une espèce de main métallique qui enserre le tronc.
C'est ça, exactement.
De cet arbre fruitier. Alors, ça sert à quoi ?
Qui est ici. Alors, le dendromètre, il est positionné sur le tronc ou sur les branches, plus régulièrement, plus généralement sur les branches.
D'accord.
Et donc, le dendromètre, il va permettre à mesurer le diamètre de la branche. Et ce diamètre, eh bien, il peut augmenter et il peut diminuer. Tout simplement par rapport à son besoin en eau. Ce qui nous apporte de l'information sur est-ce que l'arbre est en situation de stress. Donc le stress hydrique, c'est j'ai soif. Comme quand on a la bouche pâteuse, on se dit bah tiens, j'ai besoin de boire. Et bien l'arbre, c'est un peu la même chose.
Incroyable.
Lui, en fait, on va avoir son diamètre de branche diminué, ce qui va signifier qu'il a besoin d'eau. Si, alors les dendromètres, on ne met pas que sur un seul arbre. L'idée, c'est d'en mettre plusieurs sur l'ensemble du verger. Et encore mieux,
mais
si on
n'est pas un sur chaque arbre.
Non.
Non, c'est impossible.
Non, non, c'est pas nécessaire. Et puis, c'est un coût aussi. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Le dendromètre est là pour apporter une information, savoir s'il faut alimenter en eau ou diminuer l'alimentation en eau du verger. Donc, on est vraiment sur un outil qui répond à cette problématique que je vous évoquais à l'instant sur comment on va faire demain avec moins d'eau, comment on va mieux gérer notre réserve d'eau.
Et la ressource eau va être mieux utilisée. Va être,
Exactement.
Alors Jean-Marc, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup là.
Oui.
Tu vois, des protections des arbres fruitiers par micro-injection. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est toujours dans le dendromètre là?
Non.
Non, c'est autre
chose. Alors ça, c'est autre chose.
Ça, c'est fou ça.
Alors il faut savoir qu'aujourd'hui,
qu'est-ce que c'est que ça?
Lorsque, comment dire, on est sur une culture, par exemple culture de pommes ou culture d'abricots,
ouais.
Eh bien, on est obligé de faire en sorte donc de lutter contre les maladies, de lutter contre les agresseurs, les bio-agresseurs que je vous évoquais tout à l'heure.
Certains insectes, par exemple.
Voilà, on utilise toujours des insecticides, des pesticides, donc des produits phytosanitaires qui sont dispersés dans le verger par l'intermédiaire de machines assez grosses aujourd'hui qu'on appelle des pulvérisateurs. Or, le pulvérisateur, il présente une problématique qui s'appelle la problématique de la dérive. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un peu de vent, le produit que vous allez asperger ou pulvériser plutôt sur l'arbre, c'est possible qu'il se déporte un peu sur le côté. Donc nous, on travaille sur cette problématique de la dérive et pour éviter qu'il y ait cette dérive, on a imaginé une solution qui s'appelle la micro-injection.
Ça, c'est vous qui l'avez imaginé, pas vous.
Oui, c'est un travail, c'est une action de recherche.
C'est français.
Au sein du CTFL.
C'est français.
C'est français.
C'est français, s'il vous plaît. C'est incroyable.
Cette démarche-là consiste en fait à injecter directement dans le tronc pour alimenter ensuite l'arbre par l'intermédiaire de la sève les produits qui vont permettre à l'arbre de se défendre
et donc
contre les agresseurs.
Et beaucoup moins de produits. Beaucoup moins de produits du coup.
50% de produits en moins. Donc beaucoup moins de produits, beaucoup moins aussi d'interventions.
Incroyable.
D'interventions mécaniques dans le verger, c'est-à-dire moins de passage de tracteurs, moins de on va beaucoup moins. Attention madame. On va beaucoup moins abîmer le sol. Et tout ça, c'est bénéfique pour le verger. C'est bénéfique également pour l'agriculteur parce qu'il utilise moins de produits. Bénéfique aussi pour le consommateur. Donc,
c'est un travail de fourmi, là, parce que sur la petite image, je vois deux mains autour d'un appareil. Et ça veut dire qu'on va faire des micro-injections dans chaque tronc, chaque arbre fruitier,
arbre par arbre.
Manuellement.
Oui.
Mais c'est un travail de titan, ça.
Oui. Alors, peut-être que demain, on aura des machines en termes de mécanisation, robotisation qui permettront de le faire. Aujourd'hui, c'est à la main.
C'est un sacré boulot. Hein.
Nous, on est vraiment sur des dispositifs expérimentaux.
D'accord.
On est là pour apporter des solutions d'innovation aux agriculteurs. On teste. Et puis, une fois que ça marche, on transfère aux professionnels et on fait en sorte qu'ils se l'approprient et qu'il y ait le déploiement le plus global.
Contrairement au verger clos, c'est une solution qui commence à être diffusée.
Ah, mais ça, oui.
Là, on est encore sur de l'expérimentation. C'est pas encore à grande échelle, c'est ça?
Ça, c'est pas encore à grande échelle.
D'accord. C'est incroyable.
Parce qu'il faut aussi avoir les réglementations pour passer à grande échelle. Donc ça, c'est une démarche en cours. Mais on a encore quelque chose à voir.
Ah ben on continue. C'est fou.
Alors,
le robot?
Oui.
Oh, le robot. Alors là, on va avoir un robot. C'est Wally. C'est le Wally, mais pour les poireaux. Alors lui, il a une tête incroyable.
Le nom de ce robot, c'est Oz.
Oz.
Et en plus, ce qui est intéressant, c'est un robot qui est développé, conçu, inventé par une société française qui s'appelle Nayo. Donc là...
C'est français.
Là, Samuel, on passe sur ce que l'on appelle l'automatisation et les robots autonomes. Ça, c'est un robot qui tourne tout seul dans une parcelle.
GPS.
Grâce au GPS,
ouais.
Qui a une autonomie, électrique. Donc, il n'y a pas de consommation d'énergie carbone pour pouvoir rouler. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut considérer ce robot comme un tracteur avec un porte-outil. Et c'est là que c'est intéressant de savoir que le porte-outil, il va s'adapter à la culture, ouais, venez avec la caméra.
Incroyable.
Pour filmer cette partie du porte-outil. C'est ça. Ici, on peut mettre tout type d'outils en fonction des actions. Est-ce que c'est pour cercler? Est-ce que c'est pour retirer des mauvaises herbes qu'on appelle les adventices? Est-ce que c'est pour retirer des adventices? Pour biner?
Pour aérer la terre, ouais.
Pour aérer la terre. On peut faire énormément de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est beaucoup moins lourd qu'un tracteur. Donc, ça va pas du tout abîmer le sol. Et puis, pendant que vous faites ça, pendant que le robot s'occupe de faire le travail que vous faisiez auparavant en tant que maraîcher, vous pouvez faire autre chose.
Autre chose. Un peu la compta, les RH, réfléchir à une nouvelle culture.
Vous n'avez plus mal au dos, donc vous diminuez la pénibilité. Et puis tout à l'heure, on parlait d'un secteur qui devait attirer les jeunes.
Ouais.
Ça, c'est intéressant.
Vous lancez Oz s'occuper des poireaux et pouvez lancer une ou deux games, une ou deux enquêtes tranquillement. Voilà.
Voilà.
Ok. Mais ça, j'ai passé. Même question pour tout à l'heure. Est-ce qu'on est au niveau expérimental?
Pas du tout.
Ou est-ce que c'est des solutions qui commencent à être développées?
C'est des solutions qui commencent à être développées.
Ouais, ça.
Quand vous passez près des champs, entre autres en maraîchage, arrêtez-vous, regardez. Vous verrez des petites bêtes comme ça qui tournent toutes seules.
Ça y est.
Sont... Ouais, mais bien
dans
sûr.
Nos campagnes françaises, on a des petits robots comme ça.
Alors, je vous parle de Nayo.
C'est génial.
Mais il y a d'autres fabricants français et des fabricants européens. On est vraiment, je pourrais quasiment dire qu'on est leader au niveau européen sur la production de ce type de machine.
C'est classe. Oui. Il y a une question technique. Est-ce qu'il se recharge automatiquement? Comme vous savez que certains aspirateurs qui retournent à la borne. Parce que il y a un problème d'autonomie parce qu'une parcelle, ça peut être très, très grand.
Oui, oui.
Est-ce qu'on a une idée de l'autonomie moyenne de notre hose, là?
Pendant une heure, il va faire un kilomètre.
D'accord.
Un kilomètre en une heure. Et en termes d'autonomie.
En gros, hein.
Ouais, je pourrais pas vous donner l'information.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il puisse aller se recharger lui-même, quoi.
Ouais, au risque de vous dire des bêtises.
C'est fascinant.
Et oui, c'est un peu comme les robots aspirateurs qui repartent sur leur base. Bon, là, on est quand même sur des outils agricoles.
Ouais.
Donc, il faut quand même pouvoir aller le rebrancher. Mais une fois qu'il est chargé, il peut repartir, ouais.
C'est bien, parce que donc là, on voit là. Je pense que c'est pour le GPS ici.
Ça c'est le capteur GPS. Ici, vous avez des systèmes LIDAR donc, qui permettent de faire une reconstruction de l'environnement pour savoir où il s'oriente. Une machine comme ça, c'est équipé comme les voitures autonomes. Hein.
C'est
de la haute technologie. Hein.
On n'a pas parlé de prix, mais je pense que ça doit coûter un petit peu ça.
Oui.
À la louche.
Ça doit coûter un petit peu.
Ouais. Après, il faut le rentabiliser, quoi. Mais bon, c'est du temps gagné.
Aujourd'hui, la question se pose, est-ce que j'investis dans un tracteur ou est-ce que j'investis dans un robot?
Ah oui.
Donc, en fonction des travaux qui sont opérés, on peut partir sur des robots comme celui-ci.
Il y a Veid qui dit se recharger à l'énergie solaire serait incroyable, ce serait full automatique. C'est pas faux. Alors, peut-être que les cellules photo sont pas encore. Mais ce serait dingue.
Il a raison. Alors, moi, j'ai la particularité, j'ai participé au World Solar Challenge.
Oh, c'est vrai?
Oui.
Le fameux.
La course en Australie, on traverse tout l'Australie en voiture solaire.
Vous avez été sur un véhicule?
Oui, j'avais. Ah, on
incroyable.
A construit notre propre voiture.
Félicitations, vous avez bien performé?
Pas bien en Australie. Mais par contre, aux Émirats Arabes Unis, oui, on a bien performé.
Génial. Donc vous connaissez bien le sujet?
Donc c'est un sujet que je connais bien. Ce que je peux dire donc, à la personne qui pose la question, l'énergie solaire sur les véhicules, c'est surtout pour l'électronique de bord.
D'accord.
Ça permet pas d'avoir une batterie qui va faire rouler un SUV,
c'est pas
des grosses voitures. Non. Mais ça n'empêche que.
Et pourtant, sur les voitures, on voit qu'il y a des modèles qui sont de plus en plus autonomes, de plus en plus puissants.
Oui, parce qu'ils ont rechargé.
Ouais.
Et vous pouvez avoir des bornes de recharge.
Ah ouais.
Où vous allez, recharger votre véhicule, soit à la maison, soit avec du panneau solaire. Mais il y a une batterie derrière.
Là, c'est le rendement de la cellule photovoltaïque qui est pas encore.
Oui.
C'est ça.
Parce que sinon, on les verrait déjà.
Ouais. Ah, je comprends.
On les verrait. Mais ça n'empêche que les exploitations agricoles sont équipées en panneaux photovoltaïques. On en met entre autres dans les vergers.
D'accord.
Et ça permet et de protéger les cultures et de créer de l'énergie.
Ça, on commence à en voir en France.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Oui, tout à fait. Ce sont des projets sur lesquels on travaille. Et d'ailleurs, c'est un sujet
incroyable.
On a vraiment beaucoup de choses à dire. Ça va, Samuel, par rapport au timing?
Moi, je surveille pas. C'est trop intéressant, là.
Bon,
Joe, tu me dis, mais moi, je trouve ça trop passionnant, quoi. On est bien,
on a du temps. Bon, bah, super.
C'est l'avantage de Twitch. On peut. Et c'est bien parce que, du coup, imaginez, on faisait un reportage en télé, là. Si on avait voulu dire tout ce qu'on avait voulu dire, là, en, je sais pas, 1 minute 30.
On n'aurait pas pu.
On aurait été frustrés, hein.
Ouais.
Donc là, par exemple, on est sur quoi?
Alors, comme ce que je vous disais, par rapport à la captation de l'énergie solaire pour créer l'électricité.
Ouais.
On est sur une problématique qu'on appelle ça la décarbonation.
Ouais.
C'est un vrai sujet d'avenir, la décarbonation. Comment on va réussir à produire de l'énergie sans consommer de l'énergie fossile? Donc, c'est une vraie problématique, un sujet sur lequel nous, on est obligés de travailler pour une raison très simple. C'est que, bon, il faut savoir que le milieu des fruits et légumes, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre.
OK, en France.
Donc, c'est rien.
Ouais.
On a un milieu qui est vraiment... bas émetteur. Non, pas sur...
Au niveau mondial.
Pas sur la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Dans le milieu agricole.
D'accord.
Ah, dans le milieu agricole. 3%
du milieu agricole.
Milieu agricole.
Okay.
Et le milieu agricole, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre de la totalité. Donc il faut voir que c'est très, très peu. En revanche, on est plus dans une dynamique d'adaptation au changement climatique. Le problème, il est plus là. Ce que je voulais dire, c'est que même si on est bas émetteur en termes donc, de CO2, il faut savoir que les serres sont consommatrices d'énergie.
Ah ouais.
Et donc là, on a des progrès à opérer, c'est-à-dire de faire en sorte que les serres consomment moins d'énergie. Donc, on va plus travailler sur des actions de pilotage. On va aussi travailler sur des adaptations de la serre pour que celle-ci puisse mieux capter la chaleur environnante pour mieux gérer l'énergie au sein de la serre.
Et là, c'est ce que je vois avec le double écran thermique.
Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est cet écran thermique permet de faire donc 10 à 15% de réduction énergétique par rapport à une consommation qui, normalement, aurait été une consommation fossile.
Est-ce que c'est un peu comme un double vitrage sur les vitres ?
Alors, ça peut être identifié comme du double vitrage, mais tout à l'heure, vous me posiez une question qui était de savoir est-ce que les filets ne cachent pas la lumière ?
Oui.
Eh bien, en fait, on est obligé de mettre des filets parce qu'on a des problématiques d'humidification à l'intérieur des serres. Et ces filets permettent parfois de faire de l'ombre pour qu'il n'y ait pas trop de soleil direct qui arrive sur les plantes. Et si vous avez un double filet, vous pouvez retirer une épaisseur ou mettre deux épaisseurs en fonction de la protection que vous voulez apporter.
Et tout ça se pilote par ordinateur.
Tout ça se pilote par ordinateur. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de systèmes totalement automatisés qui permettent, grâce à l'IA ou à des systèmes algorithmiques, de pouvoir travailler sur le rendement de la serre, sur la consommation énergétique de la serre, sur un ensemble d'éléments qui font qu'on va réussir à produire le bon produit au bon moment en fonction de l'attente du consommateur.
C'est incroyable, c'est fascinant.
Voilà, donc ça, c'est un.
Donc l'IA va pouvoir aider nos agriculteurs, nos producteurs de fruits et légumes demain, quoi.
L'IA va pouvoir aider les agriculteurs de demain. Il y a une chose sur laquelle il ne pourra pas les aider, c'est quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et quels sont les objectifs qu'ils se donnent. Donc on sera quand même toujours là pour se dire vers où on veut aller, en quoi la gestion de la donnée va nous permettre d'atteindre les performances souhaitées. Donc ça, c'est important. On aura toujours notre place quand même dans cette dynamique-là. Et juste au-dessus, en dessous, Samuel, alors ça va beaucoup intéresser les personnes qui nous suivent. Ici, vous avez des plants d'ananas, des citrus, donc de plants de citron.
Oh, les petits ananas, c'est trop mignon, là.
Voilà. C'est un sujet, on travaille également la mangue, on travaille également l'avocat, on travaille sur les nouvelles espèces.
Ça, effectivement, c'est des fruits et qu'on n'a pas sous nos latitudes hexagonales, quoi.
Tout à fait.
Et là, qu'est-ce qui se passe alors ici ?
Eh bien, en fait, on est en train de travailler sur l'intégration de nouvelles espèces et on voit si ces nouvelles espèces peuvent vivre sous nos latitudes et bien se développer. Donc, c'est des demandes qui nous viennent des professionnels, ouais, qui aujourd'hui sont producteurs de pêche, producteurs d'abricots, producteurs de cerises.
Et qui vous disent, moi, j'aimerais bien produire de l'ananas, j'aimerais bien produire du...
Eh bien, complètement, parce que si on nous dit qu'il y a une hausse des températures, il va bien falloir s'adapter à ces hausses de température. Et c'est pas qu'une image. Le réchauffement climatique est véritablement là. Donc, il faut que l'on anticipe sur les productions de demain, sur ce que l'on sera en capacité de faire. Et nous, notre métier en tant que centre expérimental, eh bien, c'est de faire de l'expérimentation. Donc, si vous venez aujourd'hui sur nos centres de recherche, vous verrez des plants de citron qui font cette hauteur-là. Les plants d'ananas ou les avocatiers, ils sont actuellement en serre. Mais demain, on va les faire passer dehors 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et si on se revoit, Samuel, dans 5 ou 10 ans,
okay,
eh bien, je pourrais vous dire si oui, on peut généraliser la production d'ananas, la production de mangue sur le territoire français.
Rendez-vous dans 5 ans pour voir si la France est devenue un pays producteur d'ananas ou de mangue. La France hexagonale, parce que je pense peut-être que dans la France outre-mer, il y a déjà de la production.
Tout à fait, bien sûr.
Bien sûr. Excellent. Joe, il faut qu'on aille voir nos petits insectes. Incroyable.
Voilà.
Enfin, un grand merci.
Bah Samuel, avec plaisir.
Merci pour vos explications extrêmement claires.
Encore bonjour à toutes les personnes qui vous suivent.
Ouais, bah ils sont là, ils vous saluent.
Et c'est super. Ouais. Et puis, bah, je vous dis que vous avez vraiment de la chance de l'avoir parce qu'il fait découvrir des super trucs.
J'adore. La France qui devient un pays tropical, on le sait de toute façon. En tropical, peut-être pas.
Pas totalement, mais
mais bien sûr.
Le climat évolue.
Bon, en tout cas, le chat vous remercie.
Là, je vous en prie.
Merci Jean-Marc, à très bientôt.
À bientôt.
Alors, on va rester. Oui, c'est mon lacet. Ouf, j'ai l'habitude. Alors moi j'ai des lacets il faut savoir que j'ai des lacets qui sont pilotés par IA. Et donc c'est des lacets qui se délassent dès que mon pied chauffe trop. Parce que si mon pied chauffe trop, mon cerveau est moins aéré et mes questions sont moins pertinentes. Donc là par exemple, mes chaussures sont délacées, ça c'est de l'IA. Ça c'est une application pratique de l'IA au quotidien. Là on était avec, non ne rigolez pas, c'est vrai. Là on était avec Jean-Marc Gouachet, on va rejoindre Raïs Zriki, qui est ingénieur de recherche et qui travaille sur un secteur bien particulier et qui est extrêmement passionnant. Raïs, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Raïs ?
Très très bien.
Bien ?
Super, merci. Et vous ?
Alors, ingénieur de recherche, c'est bien ça ?
Oui, exactement.
Alors, de recherche dans un domaine bien particulier, quoi.
Biocontrôle et surtout sur la technique de l'insecte stérile.
De l'insecte stérile.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est la technique de l'insecte stérile?
En fait, c'est une technique qui est apparue dans les années 1950. Et en fait, au départ, a été développé surtout pour contrôler les insectes qui attaquent les bétails, les hommes. Comme il y avait une insecte qui s'appelle la lucille bouchère, ouais, qui pondait dans les plaies des animaux et qui coûtait beaucoup, beaucoup d'argent en Floride, aux États-Unis. Et en fait, cette technique a marché très, très bien. Donc, on a décidé de la développer sur d'autres espèces d'insectes ravageurs et même, par exemple, le moustique aussi. Et là, on l'utilise contre les insectes comme les mouches de fruits. Et là, moi, je travaille sur cette technique contre la mouche Drosophila suzuki. Donc, cette technique consiste tout simplement qu'on va utiliser l'insecte même pour contrôler cet insecte.
Génial. C'est, en fait, c'est le voilà, problème qui devient la solution.
Exactement. Voilà. Donc, normalement, on a un insecte qui fait beaucoup de problèmes. On ouais, va essayer d'avoir un élevage au laboratoire de cet insecte.
Donc de mâles, je suppose ou...
On va faire un élevage de mâles et de femelles parce qu'il faudrait les deux pour produire des mâles.
Oui.
Après, on va séparer les mâles des femelles.
Okay.
Et on va les...
Attendez, comment vous séparez les mâles des femelles?
Ça dépend. En fait, on a plusieurs méthodes. Soit il y a ce qu'on appelle le sexage automatisé avec l'intelligence artificielle, soit le sexage génétique. On a des souches d'insectes qu'on va, par exemple, on va exposer les œufs à 30 degrés.
Oui.
Les œufs femelles vont mourir, les œufs mâles vont continuer à développer. Pour la mouche dont je vais parler tout à l'heure, on n'est pas encore à ce point-là, mais on fait le sexage manuel.
D'accord.
On sépare les mâles des femelles manuellement.
Manuellement?
Voilà.
Mais je vais expliquer parce, comment. Parce qu'il y a des différences de taille, sans doute, ou de...
Non, en fait, il y a on appelle ça la dimorphisme
oui,
sexuel, normalement.
Quand le mâle et la femelle.
Voilà. Mais chez cette mouche, qui s'appelle Drosophila suzuki, qui est une mouche de fruits, ouais, qui est arrivée en Europe avec la commerce internationale.
C'est elle, là?
Voilà,
c'est elle.
Voilà.
Okay, d'accord.
Donc, il est arrivé en Europe, en France, surtout en 2008-2010.
Ah, donc, c'est assez récent, en fait.
Voilà. Mais dans l'espace de 2-3 ans, elle est devenue le premier ravageur des fruits rouges, des fruits à noyaux. Donc,
cerises,
fraises, framboises, myrtilles. Donc, elle fait des dégâts énormes en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord et même en Amérique latine. Et maintenant, c'est le premier ravageur des fruits rouges et surtout, c'est une vraie menace de la culture de cerisier. Donc, je reviens sur la technique de l'insecte stérile. Donc, tout simplement, on va avoir un élevage massif de cet insecte.
Okay.
Et on va essayer de rendre l'insecte stérile. Donc, surtout les mâles.
Surtout les mâles.
Voilà. Il y a plusieurs méthodes pour stériliser les insectes, mais la méthode la plus utilisée, c'est utiliser les rayons ionisants, donc okay, rayons X, gamma, donc l'énergie nucléaire, qui n'est pas du tout néfaste, normalement,
ouais,
pour l'environnement dans ce contexte-là, parce qu'on utilise des machines. On va exposer l'insecte à des doses qui sont étudiées et précises.
J'ai l'impression qu'on est dans un film de science-fiction, j'adore. J'adore.
C'était la science-fiction, maintenant c'est réalité.
Et il brille la nuit ou pas?
Non, ils ne brillent pas du tout. Les insectes ne deviennent pas radioactifs du tout. En fait, tout simplement, les insectes sont moins sensibles à la radioactivité que nous. Donc, si on va prendre l'insecte, on va l'exposer à une dose assez précise de cette énergie.
Et ça va le rendre stérile?
En fait, voilà, c'est les gamètes ou les cellules sexuelles qui vont être un peu impactées. On va avoir des fragmentations de l'ADN. Donc, en fait, on va un peu détruire l'ADN. Donc, les mâles vont produire des spermatozoïdes qui sont mutilés ou ils ne vont pas produire des spermatozoïdes. Donc, en fait, il n'y a pas de transmission de l'information génétique dans des mâles qui ne vont pas se reproduire. Voilà.
Je suis sûr que ça va provoquer plein de commentaires, ça, dans le chat. Et on les élève massivement.
Ok,
on va les relâcher sans doute.
Exactement. En fait, on va avoir une production massive de ces mâles stériles et on va essayer qu'en fait, on va aller dans l'écosystème visé.
Là où il y a des soucis.
Il y a les soucis et on va. En fait, l'objectif c'est de lâcher beaucoup des mâles stériles, que chaque fois il y a une femelle sauvage vierge qui va chercher un partenaire. Il va tomber sur un mâle stérile et pas un mâle sauvage fertile.
Comme ils seront en gros, ils seront beaucoup plus nombreux, exactement. Donc statistiquement.
Donc, ils vont s'accoupler. Il va pondre des œufs qui ne sont pas viables, qui ne vont pas éclore. Et normalement, la population ne va pas croître. Donc, cette solution, la particularité de cette solution, normalement, toutes les méthodes conventionnelles, donc les insecticides ou les autres, on va attendre que le problème arrive pour la régler. Là, on ne va pas permettre à la population d'augmenter. Ouais. Avec cette technique.
Donc ça veut dire qu'on respecte, finalement, on protège le droit au plaisir de la mouche. Qu'en fait, l'accouplement est toujours possible.
Est toujours possible. Voilà. Et on, voilà, avec un peu, on va limiter la reproduction.
C'est plutôt sympa en vrai.
C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Et en fait, cette technique est utilisée là dans plusieurs pays. Elle est une des méthodes la plus efficace dans l'histoire de biocontrôle quand elle fonctionne. Parce qu'en fait, normalement, elle est utilisée à une échelle géographique assez large.
Ouais.
À l'échelle de pays, de territoires, de bassins de production. Par exemple, pour la mouche méditerranéenne en Argentine, au Mexique, on fait des lâchers par drone ou par hélicoptère.
Mais à l'échelle d'un pays ?
Oui, à l'échelle d'un pays.
C'est énorme.
On produit, normalement, il y a des unités d'élevage qui peuvent produire à peu près environ 500 millions de mâles stériles par semaine pour couvrir toute la territoire.
C'est incroyable.
Voilà, donc pour Drosophila suzuki, qui est maintenant challenge pour la culture de cerisier en France, cette technique a été prouvée, donc le concept est prouvé. Donc on sait que lâcher des mâles stériles va réduire la fertilité des femelles de Drosophila suzuki. Au CTFL et aussi il y a d'autres pays qui travaillent sur l'Atis, on a prouvé qu'en culture de fraisiers sous abri, on a réussi à contrôler la population et à réduire les dégâts avec des lâchers de mâles stériles. Et là, le challenge, c'est aller un peu plus loin. Surtout, on va commencer à faire des lâchers en culture de cerisier.
Directement sur les cultures.
Voilà, mais là, on va faire dans des cultures. Un peu, on va aller petit à petit, parce qu'on ne peut pas aller directement en plein champ, parce qu'il faut beaucoup des mâles stériles. Ouais. Et là, nous, on est un laboratoire de recherche. On produit suffisamment pour faire des essais à une échelle assez correcte. Donc là, on va faire dans des petites parcelles de cerisier. Sous filet, parce que même sous filet, on a des dégâts de Drosophila suzuki, pour aussi savoir la quantité de lâchés, la fréquence de lâchés.
Oui.
Parce que surtout, quand cette technique, il faut inonder le milieu avec des mâles stériles. Parce que quoi qu'on fasse, les mâles stériles sont beaucoup moins sexy que les mâles sauvages qui sont élevés dans la nature.
Ah zut.
Voilà, et comme les femelles chez les insectes choisissent leur partenaire, si ça ne lui plaît pas, elle va dire non.
Il ne faut pas qu'elle ait le choix.
Et là, les femelles et les insectes choisissent leur partenaire.
Mais s'ils sont beaucoup plus nombreux, bah, du coup, le choix...
C'est la probabilité, parce que dans la nature, normalement, les mâles et les femelles sauvages ne sont pas côte à côte. Donc, si on couvre un peu l'espace avec des mâles stériles, normalement, la majorité d'accouplements va être des accouplements stériles qui ne vont pas donner de la naissance.
Raïs, tout à l'heure, je vous ai vu avec des petits tubes. Des petits tubes un peu mystérieux.
Exactement.
Où il y avait des, où il y avait des mouches.
Donc, j'avais préparé des petits tubes... Hop, donc là, il y a des mâles et des femelles de Drosophila suzuki. Et je parlais de la séparation manuelle. C'est que les mâles qui ont des spots noirs sur les ailes. Les femelles n'ont pas.
Donc, si vous avez des bons yeux, normalement,
voilà,
dans le live, si vous voyez des spots noirs sur les ailes...
Et Drosophila suzuki, c'est la seule espèce de mouche drosophile où les mâles ils ont des spots sur les ailes. Donc, voilà. Si vous voyez, ces mâles sont Drosophila suzuki, malheureusement.
Mais ils font des bons yeux.
Oui, oui. Ou on va utiliser des loupes pour regarder.
Et donc, vous, en ce moment, vous êtes sur ce programme de recherche là.
Voilà. Donc, moi, je travaille principalement, sur cette technique. On a déjà, au CTFL, travaillé sur d'autres espèces d'insectes ravageurs, donc la mouche méditerranéenne. On a eu un projet en Corse, les Carpocaps ou la verre à pomme, qui attaquent aussi les noyers. Donc, principalement, le CTFL travaille sur la technique de l'insecte stérile en général. Mais là, vu l'intérêt d'aller un peu vite pour Drosophila suzuki, on est un peu focalisé sur cette problématique-là.
Et quel que soit l'insecte ravageur, là on parlait de ver pour la pomme, la drosophile là pour les fruits rouges par exemple, est-ce que la technique là, nucléaire qu'on a évoquée tout à l'heure, elle est un peu toujours la même ou il faut à chaque fois trouver une...
En fait, le concept de la technique de l'insecte stérile est le même.
Le même.
Stériliser les mâles avec soit des rayons ionisants. C'est la méthode la plus rentable et la moins néfaste pour l'environnement. Okay. Parce qu'avant, il y avait des chimio-stérilisants, mais c'était cancérogène, donc on a arrêté. Ouais. Tout ça. Donc, quel que soit l'insecte, produire beaucoup de mâles stériles, les lâcher, ils vont s'accoupler avec les femelles sauvages, la population ne va pas croître. Sauf qu'il y a des conditions. Même si le concept est le même, chaque fois, il faudrait adapter ce concept à l'insecte. Par exemple, il faudrait déjà trouver des moyens pour élever l'insecte massivement avec des moyens qui ne sont pas très chers.
Bah oui.
Par exemple, Drosophila suzuki, on ne va pas l'élever sur des fruits, sur des cerises. On a des milieux artificiels qui ne coûtent pas cher.
Ah bah oui, après, il y a une question de coût, bien sûr.
Bah oui. Après, il faudrait aussi maîtriser toute la dose de stérilisation pour ne pas impacter les insectes aussi. Parce que si on applique des doses très fortes, les insectes vont être stériles et aussi pas en forme.
Ouais.
Parce qu'en fait, les mâles stériles devraient être compétitifs.
Et pas très sexy.
Exactement.
Et pas très sexy. Exactement. Donc ça marche pas.
Et donc, il y a plein de paramètres.
Il faut qu'on enchaîne ? Oh, dommage. Voilà.
Ray, il y a plein incroyable. De paramètres et normalement, les insectes qui se reproduisent sexuellement, on pourrait, mais il y a des insectes qui font le parthénogenèse et là, on pourrait pas parce que les femelles n'ont pas de besoin des mâles, comme les trips, par exemple. Mais il y a toujours des solutions. Incroyable. On est là pour ça.
Raïs, un grand merci. C'est passionnant.
Avec plaisir.
C'est fou.
Avec plaisir.
Merci d'avoir expliqué aussi clairement parce que vous avez su vulgariser le sujet parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe et technique que vous me l'avez dit. Mais merci de cet effort.
Bah, merci à vous. C'était avec grand plaisir.
Merci, Raïs. Bon salon.
Merci. Merci. Incroyable. Merci.
J'ai appris des choses, moi, de fou, là. Le chat, je veux absolument vous lire sur cette histoire, quand même, de stérilisation massive des mâles, là. C'est fou, ça. J'ai envie de vous lire là-dessus. Après, on ira où, Joe? Je vais prendre une minute juste pour lire les commentaires là-dessus parce que j'ai envie d'en savoir plus. Je suis sûr que Erendil a vu la différence à l'œil nu entre les deux types. Incroyable. Bob l'éponge se demandait qu'est-ce qui serait passé si on avait ouvert le tube. Parce que t'as vu, le tube était bien fermé quand même. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable, moi, je trouve. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éradication de l'espèce à terme? Non, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, c'est de la régulation de l'espèce, mais tu ne la fais pas disparaître. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des mâles et des femelles mouches, on va dire sauvages, hein, pas traitées, qui, eux, vont continuer à se rencontrer. Il y a des dates, il y a des applis. Hein. Il faut savoir que la mouche drosophile, elle a une appli de date, tout le monde sait ça. Pas de souci. Il y a une appli pour les insectes. Donc ils se rencontrent, voilà, et à un moment ils font leur affaire et les individus qui naissent sont sains. Donc c'est pas une disparition de l'espèce, mais je crois que c'est plutôt une régulation, quoi, une régulation locale, exactement, c'est ça. Je vois un stérilisons tous les mâles, c'est peut-être la solution à nos problèmes. Je dis non, on est au passenger. Personnellement, je dis non. Si on veut faire un sondage là rapide, non. Exactement. Sinon, moi, j'ai pas osé poser la question, mais est-ce qu'une stérilisation du mâle drosophile à la pince à épiler, unité par unité, non. Non, mais ça créerait des emplois. Ça créerait des emplois. Hein? Oui, des bons yeux, ouais. Et une petite pince. Bon, c'est fou. Ah, tu vois, il y a une appli qui s'appelle Fruits. Je savais, il y a une appli pour insectes de date qui s'appelle Fruits. Je sais pas, c'est une info de chat. C'est une info de chat. À moins que ce soit adopte une mouche.com. Quel est notre prochain rendez-vous? 11h36 déjà, c'est incroyable. On va rejoindre Aurélie Racamier, qui est productrice justement de fruits, hein, je crois de pêche, de nectarines, abricots. Mais justement, on va en parler directement avec elle. Aurélie, elle est où? Elle est là, Aurélie. Comment ça va, Aurélie?
Très bien, merci.
Ça va bien?
Oui.
Bon, ça me change un petit peu parce que là, j'étais avec les insectes, là. Incroyable. Les insectes, c'est un souci d'ailleurs pour Aurélie, vous êtes pêche, nectarine, abricot, c'est ça?
Oui, pêche, nectarine, abricot. Oui, c'est un gros souci, les insectes.
C'est vrai? Ah
ouais. Autant on a des bons insectes, les coccinelles, les abeilles, il y a des insectes qui ne nous posent aucun souci.
Ah ouais.
Mais autant on a
par exemple,
des insectes.
Vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous embête?
Nous, les gros problèmes, ben, exemple, le puceron, est un des plus gros fléaux et ravageurs de notre filière. Ouais. Ensuite, on a...
C'est là où la coccinelle peut être notre amie, par exemple.
Oui, je crois qu'elle le consomme un peu. Fait, c'est pas suffisamment. Ouais. Quand on a des superficies de vergers, pas suffisamment. Donc, au final, il faut lutter. Malheureusement, on nous enlève les matières actives qui luttent, justement, contre ce fléau-là.
Les produits phytosanitaires.
Voilà, oui. Ouais,
mais c'est aussi une nécessité pour l'environnement.
C'est une nécessité pour l'environnement, mais il faut penser quand même que quand quelqu'un est attaqué par les poux, il va utiliser des huiles essentielles. Mais à un moment donné, il va sortir un peu l'artillerie lourde parce qu'il n'arrivera pas à s'en défaire.
Oui, les parents connaissent...
Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous accompagnent, qui vous aident pour trouver d'autres moyens?
On a d'autres moyens, hein, il faut être réaliste.
Ça commence un peu, ça commence.
Il y a déjà des années que ça a commencé. Ouais. On n'a pas attendu d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête pour justement travailler là-dessus. On travaille avec énormément de biodiversité. Hein. Il faut voir sur nos exploitations, tout est vert. On a des haies, on garde des infrastructures au niveau enherbement sur tout ce qui est entre rangs. On a quand même des systèmes de piégeage, des choses comme ça qui sont utilisées au quotidien. Donc
qui limitent déjà, en fait.
Qui limitent déjà, mais pas suffisamment. Il faut penser quand même que des filières sont souvent regroupées sur certains bassins. Nous, on est sur le bassin méditerranéen.
Allez, vous demandez où vous étiez, vous, Aurélie.
Donc nous, on est...
Moi, ça va. Vous voulez un peu de...
Non, ça va aller, merci. On est situé dans
C'était quoi? C'était du vin? du rhum.
Non, bah ouais, après, non, après. On va attendre après peut-être.
Oui, vous êtes installé.
Donc, nous, on est dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Martin-de-Croix.
D'accord.
Donc, dans le bassin méditerranéen, vraiment en plein dedans, dans les Bouches-du-Rhône. On est quand même une région où, nous, sur notre commune, 2000 hectares de vergers. Donc, c'est pour vous dire un peu le regroupement qu'il y a. Il y a énormément de maraîchage également. Et en fait, on a toutes les mêmes problématiques. Même si on lutte, ben, le ravageur, il va venir là où c'est bon et là où il faut venir attaquer.
Sur les 2000 hectares, il y en a combien pour
nous,
vous?
On a 450 hectares de vergers, mais sur d'autres communes également, parce qu'on a des, on est sur une, un bord d'une commune, donc, de notre commune. Donc, du coup, on a aussi, voilà. Oui, oui, on est.
Je crois qu'il y a une belle histoire familiale aussi. Derrière, non ?
Il y a tout un historique familial parce que notre papa a commencé avec un hectare de verger.
Un hectare ?
Voilà.
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, on est à 450 hectares de verger sur quatre structures différentes parce que les enfants, on s'est greffé à notre papa et à notre maman.
C'est-à-dire que tous les frères et sœurs ?
J'ai déjà deux frères avec mon mari également qui D'accord. se sont rassemblés entre nous tous. Et
donc vous avez créé une entreprise ?
Une mini-coop familiale, on va dire.
Familiale,
voilà,
j'adore.
Parce que nos parents conditionnent également sur leur structure et on expédie tout également en direct de notre exploitation.
Vous êtes ensemble, le papa, les frères et sœurs,
voilà,
et chacun avec
nos conjoints, enfin tout le monde est.
Vous avez embauché tout le monde quoi.
Tout le monde est au travail, nos enfants aussi par moment.
Et tout le monde est sur pêche, nectarine, abricot.
Tout le monde fait de la pêche nectarine abricot. Après, on a un frère qui s'est diversifié dans l'olive.
Ouais.
Et personnellement, je me suis diversifié aussi dans la riziculture et la céréale.
OK.
Voilà. Et on a aussi un élevage de taureaux Camargue pour la passion.
Ah oui, pas mal. Attendez, céréales, c'est-à-dire que la grande moissonneuse-batteuse jaune qu'on a vue, là, qui n'est pas très très loin, là, elle est à vous, celle-là?
Non, elle n'est pas à moi, mais on travaille avec des prestataires.
Je suis impressionné par ce
truc, parce que le coût de cet outil et l'utilisation qu'on en a n'est pas assez rentable. Il faut être réaliste. Quand on achète des engins comme ça, il faut pouvoir les revaloriser derrière quand même. Quoi.
En tout cas, je salue toute la famille, du coup.
Merci.
Qui nous regarde peut-être. On peut parler de variété aussi, parce que pêche, nectarine, abricot, il y a plein de variétés.
Il y a toute une sélection variétale. Donc, on travaille avec des obtenteurs.
Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, un obtenteur, ben, en fait, c'est des fabricants, finalement, de variétés. Donc, qui nous créent des variétés, qui amènent les variétés après à des pépiniéristes. Mais nous, on va pouvoir les choisir aussi
eux. Hein. Moi, je veux ça.
Voilà. Alors,
ce choix, il se fait quoi? En fonction de la région, du sol, de la météo?
Il y a des vergers d'essai. Donc, ces obtenteurs ont des vergers d'essai, ouais. Justement, ce qui nous permet d'aller rendre visite régulièrement. Hein. Pour nous, c'est tous les 2-3 jours dans la semaine, hein, en pleine saison. Pour aller voir ce verger-là, justement.
Avant de lancer.
Faire un choix de variétal. On prend des fruits, on les goûte aussi. On permet de voir aussi la tenue qu'ils peuvent avoir. Parce que c'est pareil, c'est important aussi que quand ça arrive chez le consommateur, ce soit encore sain et mangeable.
Sa tenue.
Voilà, tenue, son aspect, et qu'il soit bon à manger. Donc, bon à manger, on est plusieurs dégustateurs, hein, faut être réaliste. On a nos enfants qui sont quand même les principaux dégustateurs. Parce qu'un enfant, quand il vous dit que c'est pas bon, faut être réaliste. C'est pas la peine de le planter. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros travail à ce niveau-là. Et c'est toute une filiale et une chaîne qui est avec nous en tant que producteur.
Enfin, si je prends les pêches, par exemple, qu'est-ce que vous cultivez comme pêche?
On cultive donc des pêches classiques, dites rondes, pêches blanches, pêches jaunes, mais on a aussi d'autres variétés. On a des
plates.
Voilà, on a des plates, nectarines plates et pêches plates.
Ouais.
Et on a aussi une gamme de nectarines sanguines et de pêches sanguines.
Alors ça, j'en ai jamais goûté ça.
Voilà.
D'accord.
C'est
donc avec une chair un peu
rouge. Une chair rouge, voilà.
Ouais.
Un peu acidulée, qui est quand même très bonne au niveau. Alors, très peu de gens la connaissent. Beaucoup la connaissent l'ancien produit de la pêche de vigne.
Je ne connais pas.
Mais après, il est important quand même de connaître aussi sa façon d'être cuisinée. Parce qu'en cuisine, des fois, au goût, on peut la goûter comme ça. On a l'impression qu'elle est un peu acide, un peu amère. Mais par contre, en cuisine, c'est une tuerie.
La pêche sanguine.
La pêche sanguine et la nectarine sanguine, c'est énorme. C'est très, très important à connaître et à découvrir.
Bon, les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les productions. Ça parle beaucoup d'environnement, ça parle beaucoup des produits phytosanitaires parce que on en parlait tout à l'heure ensemble. Pêche, on peut faire un sondage. Hein. Pêche, plate, blanche, tellement le meilleur fruit au monde. Je suis assez d'accord.
Alors la pêche plate est très très bonne.
Vous personnellement, pêche jaune, pêche blanche?
Alors moi personnellement, je vais préférer une nectarine jaune.
Nectarine jaune.
Voilà.
Parce que
je trouve que le parfum est quand même très très bon.
Ouais.
Ça permet d'apporter ses arômes et tout ça. Après, une bonne plate, je dis pas le contraire, c'est très bon également. Ouais. Mais c'est vrai que je suis plutôt fan de la nectarine jaune.
Sur le sucre, on va être
sur le sucre, mais c'est qu'en fait, c'est très équilibré la nectarine jaune. Vous avez quand même un équilibre au niveau acidité, au niveau sucre et parfum et arôme qui est quand même important et qu'on arrive à retrouver à ce niveau-là, qui est vraiment au top. Quoi.
On me parle de la pêche de vigne aussi dans le chat.
Oui.
Ça, vous avez aussi?
Ben, la pêche de vigne, c'est ce qu'on appelle, nous, la pêche sanguine, parce qu'on est dans un club qui s'appelle les sanguines.
D'accord,
donc,
ok.
Donc, on utilise notre marque commerciale à ce niveau-là.
Là, on est en février.
Oui.
C'est ça? Le mois de février, quand on produit de la pêche, de la nectarine, de l'abricot.
Alors, il faut savoir qu'en fait, on a du travail quasi toute l'année. Pour le verger, déjà, au mois de janvier, on commence déjà à attaquer la taille.
Ok.
Donc on commence à tailler donc sur des arbres défeuillés complètement, ce qui nous permet de voir aussi le bois mort. Ensuite, on a
tailler,
la floraison.
C'est pour permettre que, en fait, toute la
d'alléger l'arbre, hein,
que la sève dans se dirige vers les
voilà,
fruits, c'est ça.
De garder les meilleures branches et les plus productrices. Hein, parce
c'est que, ça, bon, c'est un travail manuel ou c'est un travail qui est mécanisé?
C'est un travail manuel.
Arbre
fait avec
arbre.
Un sécateur manuel, oui. Donc maintenant, on a...
C'est 400 hectares.
Voilà, donc on a facilité aussi quand même le travail de nos salariés parce qu'on travaille quand même avec une grande importance de main-d'œuvre parce que pour 450 hectares, il faut quand même au moins 400 personnes sur l'année.
Wow.
Donc on a des saisonniers hein, parce que bon, pour les vergers, il faut à peu près 200 personnes.
Okay.
Donc sur les 200 personnes, vous avez des tailleurs. Ces gens-là travaillent maintenant à l'heure actuelle avec des sécateurs électriques.
Okay.
Donc c'est plus souple, ça permet moins forcer, ça leur allège aussi le système au niveau dorsal, au niveau épaule et tout ça. On évite tout ce qui est tendinite parce qu'il faut aussi penser quand même à eux. Parce que bon, c'est quand même important, nos salariés.
Il n'y a pas que les fruits,
il y a aussi tout un ensemble. Et ensuite, ben là, on commence la floraison.
Ouais, là, ça va commencer.
Voilà, donc on va commencer avec les prospections maladies.
Okay.
Parce qu'on a des maladies sur les vergers.
Donc on va aller les regarder, c'est ça?
Voilà, c'est ça, que l'on peut détecter à ce niveau-là au moment justement de la fleur. Parce que ça fait des taches particulières sur la fleur, ça s'appelle la charca. C'est pareil, également un gros problème dû au puceron justement. Et on pourrait perdre un verger complètement dû à cette maladie. Okay. Voilà. Donc, on fait une prospection, on continue encore le système de taille. On a une première effleurage au niveau des fleurs parce qu'il faut alléger l'arbre, parce que l'arbre nous produit énormément de fleurs.
On commence déjà
à l'alléger, voilà.
Comment on le fait ça?
À la main, à la brosse. Et oui, tout se fait à la main. C'est très artisanal,
c'est
la production
énorme
de pêche.
Comme
oui.
Travail.
Oui.
D'accord,
c'est vraiment un travail artisanal. Contrairement à ce qu'on peut penser que c'est tout industriel, et ben non, tout se fait à la main. Le fruit est travaillé vraiment artisanalement.
D'accord, ok. Donc les feuillages. Après, on est en quoi? On est en mars.
On est encore février là, ouais. Cheval sur mars jusqu'à la fin de floraison. On travaille comme ça. Puis après, on continue quand même la taille hein, à ce niveau-là parce que la floraison se fait en plusieurs étapes parce qu'on a quand même, il faut penser que les variétés, celles du mois de juin ne produisent pas en septembre et vice-versa. Donc, les fruits évoluent différemment. On travaille le verger échelonné au final. Et après, au mois d'avril, on attaque l'éclaircissage. Et l'éclaircissage, on fait tomber des petits fruits qui sont déjà formés. Pour pouvoir avoir un certain calibre, parce que quand c'est trop petit, ils ne sont pas commercialisables et ne sont pas non plus consommables parce que pas forcément très bons.
Vous repérez les plus petits?
Non, on ne repère pas les plus petits. Là, on va alléger les rameaux. Donc, suivant la longueur du rameau, on va garder des fruits tous les 10, 12 centimètres à peu près. Okay. Voilà.
Pour permettre que ceux qui restent soient à la bonne taille.
Pour alléger l'arbre, oui.
D'accord. C'est non-stop.
Ah oui, c'est non-stop. Il n'y a pas d'arrêt.
Pour rester sur la pêche, la récolte, elle va se faire quand? Chez vous?
Alors nous, la récolte, elle se fait à partir de fin mai, début juin environ. Et après, on va jusqu'au 20-25 septembre.
Qu'est-ce qui se passe après?
Donc, après,
ça, c'est la récolte.
Après, on a une petite taille aussi en verre qui se fait sur le mois d'octobre. Voilà, donc il faut être réaliste. On ne pense pas. Puis on a l'arrachage aussi des arbres, des variétés qu'on veut renouveler parce qu'il y a des variétés qui ne plaisent pas forcément aux clients, qui ont produit pendant des années, qui vieillissent. Donc il faut pouvoir travailler à ce niveau-là. Donc derrière, au mois d'octobre, on reprépare aussi notre verger pour la replantation qui se fait en janvier.
C'est non-stop.
On n'a pas l'impression.
Hier, on parlait des céréales. Je peux rester encore une minute? On surveille le timing. On parlait des céréales, on parlait aussi de... Et on parlait avec un céréalier, on parlait de la question des vacances.
Oui.
Est-ce que l'agriculteur aujourd'hui, il peut prendre plus qu'hier des vacances? Et la personne me disait, c'est surtout en matière d'élevage que c'est compliqué. parce que l'animal, il a besoin d'un soin constant, on peut pas le laisser tout seul.
Ça, c'est important.
Est-ce que parfois, quand on est à la tête d'une exploitation comme celle-ci, pêche, abricots, nectarines, on peut s'absenter un petit peu, on peut partir une semaine?
Alors, on essaie de faire une coupure, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé à partir avec mes parents, j'avais 14 ans. La première fois que je suis partie en vacances, vraiment de vraies vacances
avant,
avec
y avait,
mes parents.
Avant, il n'y avait pas.
Avant, il n'y avait pas. On ne savait pas ce que c'était. Déjà, il n'y avait pas forcément les moyens financiers non plus.
Vos parents ne partaient pas en vacances?
Non, mes parents ne partaient pas. C'était des fois quelques jours, un week-end, un samedi, un dimanche. Enfin, c'était très, très court. Hein, donc, on ne partait pas. Là, nous, on se permet de le faire parce qu'on est un peu plus nombreux. Mais par contre, c'est pareil. C'est des très courts. C'est une semaine, c'est 10 jours et pas plus. Donc, on essaie quand même de limiter à ce niveau-là. Mais il faut partir parce qu'on a une surcharge de travail telle que si on part pas de chez nous, qu'on se dit oh, bah, aujourd'hui je vais rester tranquille, en fait on reste jamais tranquille.
Il y a toujours un truc à faire.
Il y a toujours quelque chose à faire. Donc,
Alors, c'est intéressant parce que vous avez vu vos parents travailler beaucoup,
oui,
avec un rythme de travail exigeant. Et malgré tout, vous, et pas seulement vous, vos frères et sœurs, vous avez suivi la même voie.
On a suivi même voie.
Ces aspects négatifs, entre guillemets, vous ont pas du tout dissuadé?
Non, ils nous ont pas dissuadé. Déjà, on nous a appris le travail dès le plus jeune âge, hein, parce qu'on les a accompagnés, à notre échelle, hein, on aidait, on étiquetait des palettes, on tamponnait, on a goûté. Après, on était au quotidien avec eux parce que, bien souvent, la maison, elle est collée à l'exploitation, hein, elle est sur l'exploitation.
Après,
même.
C'est pas parce qu'on connaît qu'on a envie. À un moment, il y a eu quand même l'envie de continuer.
Nous, on a eu l'envie, mais après, on est parti chacun de notre côté voir un peu ce qui se passait aussi ailleurs, hein, parce que moi, je suis aussi issue de l'hôtellerie, donc je suis sommelière à l'origine.
Ah, c'est intéressant. Vous avez fait autre chose.
Je suis partie dans l'hôtellerie, puis j'ai rencontré mon mari qui était maraîcher, donc qui était producteur de melons et de salades.
Le truc qui vous rattrape, quoi.
Autant vous dire que, c'est des métiers qui se croisent pas vraiment, hein. Quand on travaille un la nuit, l'autre le jour, c'est complexe. Donc, du coup, à un moment, il faut savoir faire des sacrifices quand les enfants arrivent. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai rejoint l'exploitation de mes parents.
Okay.
Et mon mari, derrière, a arraché notre exploitation qui s'est vendue à notre porte.
Bon, félicitations.
Merci.
Merci pour toutes les explications. Donc là, vous restez combien de jours au salon?
Là, je repars demain soir. Demain. Donc, on rencontre un peu des clients aussi, parce que c'est quand même important de garder un relationnel.
Des collègues aussi avec qui vous échangez.
Voilà, des collègues avec qui on échange, mais franchement, principalement des clients qu'on arrive à
avoir. Bon salon alors.
À voir. Merci beaucoup.
Un grand merci.
Merci.
Prenez bien soin de vous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Incroyable. Bon, je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail. Merci beaucoup. Les amis, ça va? Je ne sais pas si vous êtes aussi impressionnés que moi par le soin nécessaire sur une exploitation comme celle-ci. Moi, je trouvais ça complètement fou. C'est incroyable. Je vous lis un petit peu. De quel endroit elle a dit? Elle a dit dans le sud. Précisément, c'était... oui. Dans le sud-ouest un peu, non?
Non?
Dans le sud-est plutôt, ok. Saint-Martin-du-Croix. Bon, heureusement, il y a Baptiste qui écoute. En même temps, Baptiste, c'est l'ingénieur son. Donc, si l'ingé son n'écoute pas, ça ne va pas. Donc, Baptiste, merci déjà. Heureusement que tu... Saint-Martin-de-Croix. OK. Le chat, il écoute aussi. Hein. Bravo, en vrai. C'est assez impressionnant, quoi. Alors, je comprends tout à fait. Hein. Il y a Midi Minuit qui dit impressionné, mais agacé par le discours sur les produits phytosanitaires. Moi, je comprends tout à fait ce genre de type de réaction. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des exploitants qui sont habitués à travailler d'une certaine façon depuis des décennies. Hein, parfois plus. Vous savez, là, c'est tout à l'heure, on parlait avec un producteur d'ail, c'est ça, la quatrième génération. Donc, il y a les habitudes, il y a des préoccupations de rendement, hein, de travail, de pas perdre une récolte. Je pense que vous savez à peu près que nos agriculteurs français ne roulent pas sur l'or en moyenne, que le revenu moyen il est extrêmement faible. Donc, quand il y a des injonctions, ô combien nécessaires d'ailleurs pour protéger notre environnement de ce type. Alors, ils peuvent en être convaincus en termes de citoyenneté, mais en termes de producteurs, après, si on ne leur donne pas les outils pour remplacer ces produits phytosanitaires à un coût, on va dire, comparable, pour pas couler l'exploitation, je comprends que la question puisse se poser. Après, quelqu'un dans le chat me disait, moi j'ai des amis qui sont producteurs qui sont agriculteurs et qui produisent que du bio sans produits phytosanitaires et qui s'en sortent très bien. Donc après, il y a des modèles à réinventer aussi, quoi. Mais ça. En tout cas, c'est un débat extrêmement important. J'ai vu que ça vous inspirait et ce débat, vous avez complètement raison, il est essentiel, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite, mon Joe? Faut que je vais faire du vélo là. Oh, putain, je suis encore crevé par l'exercice de la. Putain, j'en reviens pas que tu m'aies battu à. Ah, mais tu m'as battu, surtout, j'en peux plus, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a la Tour Eiffel, là. Alors, pour ceux qui étaient pas avec nous au début du live, il y a une Tour Eiffel qui s'écrit ici F-L, parce que fruits et légumes. T'as capté? Voilà. Alors, et d'ailleurs, un mot, vous avez plein de fruits et légumes ici qui sont utilisés pour le stand, pour la décoration ou autre. Tous ces fruits et légumes utilisés ici sur le salon, un, ne sont pas maltraités, deux, sont redistribués à des associations, notamment Banque Alimentaire d'Île-de-France. Il n'y a aucun fruit ici qui va être jeté à la poubelle, qui va être perdu. Donc tout va être utilisé, réutilisé. C'est des fruits qui volontairement ne sont pas abîmés. On fait très attention à ces fruits pendant toute la durée d'une journée comme celle-ci, par exemple, pour qu'ils puissent être redistribués à la fin de la journée à des banques alimentaires. On va faire du vélo ? On va faire du vélo. Mais du vélo smoothie. Il y a Pictarose dans le chat qui dit 100% le modèle à réinventer. Les agriculteurs ont eu de bien meilleurs rendements naturels qu'en phyto sur des parcelles à taille humaine. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que les fruits sont d'accord, Dounis ? C'est une très bonne question. Je vais poser la question. Alors là, on s'approche d'un vélo smoothie. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, super.
Votre prénom, c'est jamais trop flashy, c'est ça ?
Jamais trop flashy, c'est mon nom de code.
C'est quoi votre prénom ?
Moi, c'est Nicolas.
Nicolas, ça va ?
Ça va très bien, merci. On est au salon.
Qu'est-ce que vous faites ici ?
Il y a du monde qui vient nous voir, on est au bon endroit au bon moment.
Vous faites quoi, là, Nicolas ?
Alors, des vélos smoothies. Voilà, venez filmer ça de près, les amis.
C'est nouveau, ça ?
Alors, c'est pas nouveau, non. C'est même dans toute la France qu'on embarque les vélos pour faire de la pédagogie autour des fruits et légumes frais, voilà. Alors les gens, ils pédalent, c'est la tête et les jambes. Parce qu'en même temps, moi, je pose des questions sur les fruits et légumes.
En même temps que les gens pédalent. Ah oui, donc il faut vraiment travailler les deux, quoi. Ah, attends, oui. Et là quel smoothie on prépare, là ?
Alors là, à l'intérieur, vous avez de l'orange,
de
la pomme et des épinards. C'est ça qui est intéressant.
Quoi ? Sérieux ?
Ouais, ça me...
Pomme, orange, un petit smoothie,
des épinards,
pomme, orange, épinards.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir des légumes ou des fruits auxquels on n'aurait pas pensé. Mmh. Et ça, on le retrouve sur le site internet lesfruitslegumesfrais.com. Mmh. Parce qu'il y a plein d'idées comme ça pour nous apporter des nutriments, des vitamines auxquelles voilà, on n'aurait pas forcément pensé.
On me dit que certains l'ont vu à Lyon. Il y a Maximus qui nous dit « J'ai déjà eu un vélo comme ça dans mon lycée, c'est grandiose. »
Eh ben voilà.
Il y a des lycées où il y a des vélos smoothie. moi dans mon lycée, il n'y avait pas de vélo smoothie. Hein.
Non, alors parfois il y a des vélos pour recharger les téléphones portables aussi dans les lycées, dans les établissements.
C'est bien ça.
C'est vrai. Eh ben nous on fait des smoothies, on recharge pas, on recharge nos batteries mais à interne, voyez.
Et les gens repartent avec leur smoothie du coup ?
Bien sûr, même plus que les gens qui pédalent, puisque on fait des dégustations. On va dire qu'on va faire comme ça une centaine de dégustations à la volée. On a Lucie qui nous accompagne, c'est toute une équipe sur le salon.
Bonjour,
on
Lucie.
Fait coucou à Lucie. Et voilà, et donc ça nous permet de parler du site internet, de faire de la pédagogie, parce que nous ici sur le stand on n'a rien à vendre, hein. On est là simplement pour faire aimer les fruits et les légumes, ouais. Que les enfants ils mangent des légumes, on a plein d'idées recettes, voilà c'est des astuces quoi, et puis en plus on s'amuse.
J'ai été choqué d'apprendre tout à l'heure, contrairement à ce que je pensais, la consommation de fruits et légumes n'augmente pas en France, elle est stable, alors qu'avec les messages de prévention de santé publique depuis quelques années déjà, je pensais que ça avait vachement augmenté, mais en fait pas du tout.
Mais elle est stable aussi parce qu'il y a de la communication. S'il n'y avait pas de communication, est-ce qu'elle ne descendrait pas ?
C'est fou ça.
Ouais, on essaye au moins de la stabiliser, si ce n'est de la développer. Ouais.
Oh, d'ailleurs, je vois Iris Vell, qui en fait, qui est plein de choses, Iris, ouais. Mais, qui est monteuse, qui est en régie actuellement. C'est-à-dire que si jamais... on perd le signal de notre stream. Je l'ai pas salué du stream, Iris. J'en profite. Elle est là et elle reprend la main pour qu'il y ait pas de. Et Iris, c'est son nom d'artiste. Et Lucie, c'est son vrai prénom.
Ah, Lucie, c'est le vrai prénom pour Lucie.
Voilà. Donc j'ai une autre Lucie avec moi. Voilà.
Est-ce que Iris, elle mange des fruits et des légumes, Iris?
Bah, on va lui poser la question. Déjà, je la salue, Iris, parce que j'ai oublié de te saluer en début de stream. Iris, merci d'être avec nous. Du coup, Iris, elle a pas trop travaillé pour l'instant parce que la connexion, elle est très bien. Elle fout rien.
Ah voilà, c'est une belle journée sans accro.
Il y a Joe qui me dit, elle fout rien. Du coup, elle est dans le chat, elle écrit.
Est-ce que Samuel, est-ce que les gens savent que la caméra tient sur une poussette ou c'est des secrets ça ?
Non, ils le savent. Enfin, ils le savent. Les habitués le savent.
Ah oui, c'est magnifique votre système.
Alors, elle ne se filme pas elle-même, Mais effectivement, pour ceux qui arrivent en cours de stream, on a une poussette de stream. Alors c'est avec mon épouse, on a inventé ça.
Génial.
On cherchait une façon d'emporter du matériel sans le porter toute la journée.
Ouais.
Et d'avoir une caméra stable.
Mais bravo.
Donc la caméra est fixée sur un bras magique.
Voilà.
Même deux, tu vois, pour que ce soit super stable. Il y a du son, il y a de la connexion. Et la poussette nous permet de faire des petits travelling.
C'est parfait.
Pas mal, hein. Voilà. Donc c'est pas une poussette smoothie.
C'est pas, elle fait mais, pas de smoothie, mais elle fait très bien le travail.
C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Merci, Losamouille pour le
son. Alors, on peut demander à la communauté s'ils consomment des fruits et légumes, s'ils connaissent des fruits et légumes un peu originaux, qui sortent de l'ordinaire.
Bon, pour leur poser la question.
Bah oui.
Bah du coup, Iris, qui est en la régie, a montré à l'instant au stream des images de la poussette de stream.
Ah bah voilà. Merci, Iris. Comme voilà. Quoi, elle bosse, bravo, Iris.
Elle, hein? Non, elle m'a dit que c'était elle. Non, Iris m'a dit que c'était elle. Il y a Joe qui dit non, c'est moi. Putain, le débat.
Qui fait quoi?
Incroyable. Celle-là, elle est bonne. Tu m'étonnes de la baisse de la natalité, les caméras remplacent les bébés.
Ah, bien joué.
Elle est pas mal, elle est pas mal.
C'est le futur, ça.
Elle est pas mal. Il faut que j'aille pédaler?
Ben, Samuel, oui. Alors, vous choisissez votre vélo. Voilà. Et surtout, il faut choisir un acolyte avec vous, hein. Faut être deux à pédaler, là.
Faut être deux. Joe, allez. Est-ce que c'est dur?
Non, c'est pas dur du tout. C'est même très rapide. Alors, on a un mixeur qui fonctionne un peu mieux que l'autre.
Attends, moi, je veux celui qui marche, moi.
Alors, Samuel, c'est ici, alors. Voilà.
C'est long comment?
Non, c'est une minute, deux minutes.
Est-ce qu'il faut que j'enlève ma veste?
Non, ça va pas. Vous n'allez pas avoir trop chaud. En fait, ce qui se passe, je le dis sur le stream, du coup, hein, ce qui se passe, c'est que pendant que ces messieurs pédalent, eh ben, on pose des questions sur les fruits et légumes pour en savoir plus, pour en apprendre plus. On parle du site internet, lesfruitsetlegumesfrais.com. Ah oui, ça tourne déjà. Bon alors, vous voulez qu'on mette un peu d'ambiance?
Ouais, let's go, let's go.
Combien de sommes?
Messieurs, dames,
je crois que c'est... Non, mais je crois qu'il n'y a pas de...
Comment tu t'appelles?
Joe. C'est Joe.
Bon, Joe et Samuel. Allez.
On y va,
les gars, on pédale. Pas besoin de pédaler fort, hein, tu vas voir. C'est parti. Et voilà. Et alors, en même temps, je pose des questions.
Ok.
Comme ça, c'est la tête et les jambes, vous voyez, garçon?
Il y a des questions.
Alors, à votre avis, sur quel arbre poussent les pommes?
Les pommiers.
Oui, d'accord, les poires.
Poiriers.
Ok, les cerises.
Cerisier.
Oui. Et le kiwi?
Ça pousse pas dans les arbres.
C'est pas des arbres, c'est un...
Oui,
c'est
bravo,
c'est
pas des arbres.
C'est un arbuste grimpant.
Exactement, c'est comme une liane.
Oui, exactement.
Un peu comme des vignes.
Et bravo. Il faut un plan mâle et un plan femelle.
Bravo, exactement. Ça s'appelle un actinidia.
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 Je crois que c'est un yaourt, moi.
Il y en a qui savaient que c'était actinidia, le kiwi? Et voilà, c'est à ça qu'on sert ici.
Il est fort.
Ouais. Et le kaki, ça pousse sur quoi?
Pareil. Non, si. Parce que oh, c'est un buisson.
Oui.
Ah, c'est un nom qui a rien à voir. Attends.
Oui, ça n'a rien.
Cognassier.
Cognassier, c'est le coin.
Ah merde. Oh, pardon.
Un plaque minier pour réponse de madame.
Oh, wow.
Bah, c'est madame. C'est vous. Il faut venir jouer à question pour un champion.
Ah, c'est question pour un smoothie, là, les amis.
Ah oui, le plaque minier, c'est le kaki. Ouais, le pire, je l'ai déjà posé dans mon émission, mais.
Ah oui, ah oui. Mais vous retenez pas tout ça.
Rien.
C'est une
catastrophe.
À 9 ans, quand même.
Et Joe, tu retiens, toi, un peu?
J'ai déjà oublié.
Là, c'est assez?
Oui.
Ou encore un
par
peu.
Par exemple, c'est assez, oui, mais on continue les questions.
Oui.
À votre avis, comment s'appellent sur une fraise les petits points blancs, les petites graines qu'on voit? Vous le savez, ça.
Pépin me l'a dit, mais j'ai oublié.
Mais oui, c'était dans Question pour un champion, émission 2544.
Sur les fraises. Les petits points sur les fraises, madame.
Les petits points sur les fraises, comment ça s'appelle?
Non.
Des akènes, A-K-E-N-E, akènes.
Akènes.
Est-ce que vous savez qu'on peut faire des gaufres avec du butternut?
Oui.
Sérieux?
On peut faire des cookies avec de la courge?
Non.
Eh oui.
Il y en a?
Il y en a eu. On a tout mangé.
Comment ça?
C'est nul.
J'ai faim.
Aujourd'hui, c'est l'ail qu'on met à l'honneur. Un ail au pluriel des...
Des os.
Non, bravo, Joe, des os.
Un ail des os.
Madame, elle est trop forte, madame.
Bravo, madame.
Madame, elle fait du Scrabble, des trucs comme ça, je sais pas.
Ah oui. Bon, voilà, faut le dire à la communauté, un ail des os. Voilà.
Vrai,
en même temps, on apprend un peu plus sur la langue française, voyez. www.lesfruitsetlegumesfrais.com. C'est hyper important. Je fais un petit passage institutionnel comme ça, très rapidos. Mais en fait, sur ce site internet, vous avez des recettes pour faire consommer des légumes aux enfants. On parlait de poussettes, là, tu vois. Vous avez des idées recettes qu'on pourrait pas avoir au quotidien. Et vous avez un butternut à la maison, vous savez pas quoi faire. Vous mettez butternut sur la barre de recherche.
Et on fait un cookie.
Bam. Et hop, on vous propose un cookie.
Et attends, on a même mis un lien dans le chat.
F-E-L-F.
F-E-F-L.
Point d'exclamation, ouais, F-E-L-F.
F-E-L-F. Si vous tapez point d'exclamation F-E-F-L, des fruits et légumes
frais.
Frais. Point d'exclamation FEFL, vous avez le lien. Vous avez le lien.
Merci beaucoup. Bah ouais,
c'est, exactement. C'est à fait. Hein.
Merci les
c'est
garçons. Bossé. On travaille avec des nutritionnistes, des diététiciennes qui font des menus. Il y a plein de choses. C'est ludique. Le site internet, lesfruitslegumesfrais.com, vous allez voir.
On est bon sur les smoothies ou pas?
Pour les smoothies, on est bon. On va goûter. Oh. On va goûter. C'est parti. Applaudissements pour nos cyclistes, s'il vous plaît.
Oh waouh.
Bravo les gars.
Donc là,
il en a perdu sa salopette, Joe.
Orange. Épinard et pomme.
Exactement. Ça peut être orange, bon. Épinard et pomme. Et vous allez voir. Pour les kiwis, il n'y a pas besoin de pas les premières pour avoir les kiwis. Il y en a qui sont grimés. Ouais, il y en a qui sont grimés. Mais bon, voilà. Tu peux pas dire. Si, mais c'est parce qu'il parlait de greffe. C'est un autre sujet qui est un peu délicat, c'est l'agriculture.
Ah ouais ?
Toujours des sujets comme ça, bien sûr. Nous ici, on est sur de la vulgarisation et de la bonne humeur, voilà. Alors, goûter, ça se passe par là. Si la poussette veut s'approcher.
Ah, trop bien.
Comme ça, vous verrez Lucide plus près. Donc là, j'imagine, chers amis, que c'est toujours en direct, ça filme sans non-stop.
Ça ne s'arrête jamais.
On est au cœur de l'action.
Ça ne s'arrête jamais.
Alors, on va pouvoir le goûter. Vous allez voir, il peut y avoir des morceaux. C'est pas grave, parce après, que les morceaux, c'est des fibres.
On a bien mixé quand même, nous. Hein.
Bravo, ouais, bravo les garçons, vous avez bien pédalé.
Ça va les mollets, Joe? Ça va les mollets? Tu veux goûter?
Oui, allez-y, goûtez.
Joe?
Voilà, Baptiste, pour ceux qui ont
Baptiste,
pédalé.
Tu veux goûter?
Exactement, Samuel, servez-vous. Voilà pour l'équipe. Et là, vous voyez, on prépare un plateau pour tout le monde.
Merci, Lucie.
On a des fiches recettes. Lesfruitslegumesfrais.com.
Santé, les amis.
Waouh, la vache.
Et voilà, on déguste. Et vous allez voir, alors c'est le sucre naturel hein, du fruit. Ça passe bien. En fait, on apporte des vitamines et nutriments qu'on n'aurait pas. Et surtout, il y a des fibres. Parce qu'on dit souvent qu'il vaut mieux, et je le dis à la communauté, parce que c'est hyper important comme message, ça. Il vaut mieux manger un fruit que de boire un fruit. Alors bien sûr, si on a des enfants, on veut leur faire consommer des fruits, ils ne consomment que des fruits en jus, c'est bien aussi. Ouais. Mais manger un fruit, vous avez les fibres, vous avez la satiété. Quand vous mangez une orange, vous mangez une seule orange. Quand vous pressez une orange, on en presse deux, trois. C'est trois fois plus de sucre quand même, du bon sucre. Ouais. Mais quand même trois fois plus de sucre.
Et puis sans compter le jus de fruit, quand il est transformé, quand il est en bouteille, alors là, sur le sucre, on est encore sur autre chose.
Ah, bah là, c'est un autre débat. Ouais. Voilà. Ici, nous, on parle que de fruits et légumes frais non transformés.
Donc, idéalement, le fruit, il faut le manger, donc.
Dans l'idéal, il faut le manger. Ou le faire en smoothie, parce que vous voyez, il y a des petits morceaux d'épinards.
Ouais, je sens là.
Voilà. Et c'est très bon. Hein. Faut pas, les enfants, parfois, ils n'aiment pas au niveau de la texture. Pourtant, c'est très, très sain, très, très bon d'avoir les fibres qui nous permettent d'assimiler les vitamines. Encore mieux.
Il y a plein de petits. La dame, elle a bien travaillé, elle a le droit à plusieurs.
Ah ouais. Hein, la dame, elle a le droit. Regardez. Ça, c'est pour notre championne qui a gagné à question pour un smoothie, vous voyez.
Merci Nicolas pour toutes ces infos.
Merci à l'équipe, merci Samuel.
Merci à toi.
Merci d'être venu sur le stand.
Merci Lucie, merci beaucoup.
Merci beaucoup Lucie.
Merci. Ouais. Et bonne journée à vous.
Salut tout le monde.
Incroyable. Alors je vais reprendre mes notes parce que je les ai abandonnées. Merci beaucoup. Et le chat. Alors ça, Twitch c'est bien, sauf qu'à un moment, la limite de l'expérience c'est que les gens ils peuvent pas goûter. Ils peuvent pas. C'est bon en vrai. Moi j'aimerais un stream demain où. Littéralement, les gens peuvent goûter, quoi. Tu vois, un stream goût et odeur. Ça dépend des streams, remarque.
Il se rappelle pas les burgers que t'as fait là, les hot dogs.
Allez quoi?
Les burgers et les hot dogs que t'as fait.
Avec Shones. D'ailleurs, j'en profite pour faire la publicité de mon ami Shones, qui je l'ai vu sur Twitter. Shones, vous savez le streamer, le gamer qui m'a initié à TFT notamment, qui sera en direct du Salon de la Culture sur sa chaîne, je crois. À partir de 12h30, avec Sunday et avec DFG. Ouais. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça avait l'air très sympa. N'hésitez pas, c'est à partir de 12h30. Clément Polito, oui, le stream, goût et odeur, mais pas quand tu pètes. Voilà, pas. Comme si Samuel pouvait péter, quoi. Bientôt en une du monde, Samuel Etienne, du PAF, au Prout. Ah non, ils l'ont déjà fait. Ah, c'est déjà fait, désolé. On va où maintenant, Joe? Ah ouais! Alors là, les amis, là, on va aller voir. Là, on va aller voir Eric. On va aller voir Eric Fabre. Je pourrais faire littéralement 3 heures d'émission minimum, un live entier avec Eric, parce qu'il a plein de choses à nous raconter. C'est un primeur. Qu'est-ce qu'un primeur? On va lui demander. Et c'est un MOF, meilleur ouvrier de France, mais dans le secteur des fruits et légumes. Et là, il y a vraiment des choses assez étonnantes. C'est parti. Eric! Bien sûr, monsieur. Allez, on fait une photo avec le monsieur.
Avec mon épouse.
Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On est avec Eric. Eric Fabre.
Bonjour.
Eric, je viens de prévenir ceux qui nous regardent, les viewers dans le chat. On pourrait faire une émission tous les deux ensemble intégrale.
Comme vous voulez.
Mais on a plein de trucs à se dire.
Ben oui, il y a plein de choses en fait qui nous ressemblent aussi.
Les choses ont point en commun. Eric Fabre, tu es, on va se tutoyer.
Allez, ça marche.
Tu es primeur.
Primeur.
Qu'est-ce qu'un primeur ?
Un primeur, c'est un sélectionneur en fait de saveurs, un sélectionneur de fruits et légumes qui aime en fait ses produits vivants, qui a dans tout ce respect en fait de la filière, autant du producteur jusqu'au consommateur. On va aller chercher le meilleur. Dans la saisonnalité, dans la proximité.
Ah, très bien ça.
Et en mettant en place, surtout en avant, le goût. Hein, donc, moi, quand je donne un produit que je conseille un produit à un client, je lui dis, mais tenez, d'abord, goûtez-le. Et qu'est-ce que vous en trouvez ? Est-ce que vous aimez acidulé, sucré, juteux, fondant, croquant.
Et ça permet de le guider, de l'orienter vers tel ou tel produit selon son goût à lui. Quoi.
Son goût à lui et ce qu'il veut en faire aussi en destination par rapport à la cuisine. On ne va pas lui conseiller la même pomme s'il veut une pomme donc, au couteau qu'une pomme pour faire une tarte. Voilà, c'est notre connaissance métier, notre savoir-faire qui va dans ce sens-là.
Eric, tu as une très jolie veste avec un très joli col. Voilà, et ça nous emmène vers le MOF, le meilleur ouvrier de France. Et j'apprends grâce à toi que depuis quelques années, c'est pas si vieux que ça, il y a des MOF dans les fruits et légumes.
Alors, 2011, Samuel.
2011. C'est pas très vieux.
C'est pas très vieux. Et ça a été une volonté aussi de la Fédération Saveurs Commerce de promouvoir en fait l'excellence de nos métiers. Et aujourd'hui, on a les MOF et on a aussi la base, la formation. Avec un CAP primeur.
Qui lui aussi n'est pas très très vieux.
Qui n'est pas très très vieux.
Il y a un CAP primeur, ça. Il y a un CAP qui prépare au métier.
À la connaissance des à la connaissance du métier.
Il existe depuis combien de temps, à peu près ?
Alors, 2018.
C'est vraiment très récent.
Moi, j'ai ouvert la première classe à la CFA de Toulouse-Blagnac en 2019. Ouais. Et après, donc, il y a à peu près maintenant une quinzaine de sites en France qui dispensent le CAP. C'est de l'alternance. Donc, c'est 2 ans.
Ouais.
Alors, l'alternance, c'est quoi ? C'est généralement 2 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA. Et donc, au bout de 2 ans, on a un diplôme.
Mais comment ça se fait qu'on ait dû attendre 2018 pour avoir un CAP primeur parce que...
Mais en fait, parce que le fruit et légumes, c'est tellement essentiel que c'est transparent. Quoi.
Ouais.
Et la volonté, justement, de l'interprofession et de nos fédérations qui avaient voulu en fait, professionnaliser ce métier pour tout simplement que le consommateur soit et en face des vrais professionnels des fruits et légumes. Samuel, on n'est plus des marchands de patates.
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
On est des vendeurs de fruits et légumes avec toute la connaissance et tout le savoir-faire en fait, qui nous incombe.
Eric, CAP, on va dire que c'est le premier grade, le premier diplôme. MOF, c'est un diplôme aussi d'ailleurs. Hein. Mais entre les deux, est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ? Je dis n'importe quoi, un bac pro, un BTS
Alors, il y a des choses qui se trament, oui,
ah ouais
qui s'impulsent un petit peu aussi par nos envies et de voir un petit peu la connaissance terrain. Moi, je parle souvent de mettre en place peut-être une mention complémentaire.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, c'est vrai que le
comme quotidien... Comme mention complémentaire
primeur.
Voilà. Ouais.
Voilà. Et si tu veux, le fait la définition... Primaire, c'est le client, c'est le métier, c'est la proximité, c'est le conseil. Mais après, on a aussi toute l'interaction des professions des métiers de bouche, comme les cuisiniers, oui, comme les traiteurs, comme les charcutiers. Et là aussi, on a de la transversalité à faire apprendre à nos amis en fait, de ces professions-là sur la connaissance des produits. Et ça, on va y arriver.
En
on
fait,
va
ça,
y arriver.
Ça se faisait de façon empirique avant, c'est-à-dire un grand chef, par exemple, il savait qu'en allant aller voir tel primeur, il va avoir un passionné, un expert, quelqu'un qui connaît bien son produit, qui va pouvoir le conseiller. Et en fait, si on met en place des formations, ça va permettre de généraliser cette expérience.
C'est ça. C'est ça. Donc on va y arriver. En fait, on a besoin de rendre ce métier sexy. C'est un métier passionnant. On vit au fil des saisons. On a ce côté en fait. Il n'y a pas de chômage dans le métier de primeur. Hein,
non. Attends, il y a des emplois.
Il y a des emplois.
C'est vrai.
Énormément d'emplois.
C'est
énormément.
Un secteur qui embauche là.
Complètement.
C'est vrai.
Complètement. Et puis autant en fait, si tu veux, dans le domaine du détail que dans le domaine de la grande distribution. Ouais. En fait, il y a des promotions internes. Il est rémunérateur.
Ça va être rémunérateur ?
Ah ben bien sûr.
C'est vrai, il y a des bons salaires.
Ah ben oui, oui en fait. Alors après bien sûr.
Des patates, il y a moyen de se faire des patates. Désolé, tu...
Oui, peut-être.
Non, mais si, obligé. Non,
mais quelque part, en fait, si tu veux, oui, on n'a rien sans rien aujourd'hui. Ouais. Forcément, il y a des heures, mais comme dans tous les métiers. Et à partir du moment où il y a la passion, voilà. Et regarde même...
C'est essentiellement des postes de commerciaux.
Alors, au commerce.
Au commerce en fait, ou pas seulement
dans le domaine du fruits et légumes, ouais. les métiers sont très nombreux. Donc là, nous, c'est vrai qu'en tant que primeur, il faut être avant tout un bon vendeur, ouais. Aimer les gens, ouais. Aller au contact, aimer la nature, aimer cette saisonnalité-là, dans cette transversalité.
Aimer le produit.
Aimer le produit, mais forcément, ouais. Forcément. Tiens, regarde, hein, Samuel.
Oh, qu'est-ce
tu vois, merci. Ça, c'est vraiment le savoir-faire primeur. Aujourd'hui, cette nouvelle génération, en fait, qui va mettre à table le produit.
On va le montrer à la caméra.
Voilà.
C'est un bouquet de Saint-Valentin, ça.
C'est un bouquet de Saint-Valentin, mais c'est un bouquet avec nos premières fraises garrigates françaises et avec des petites myrtilles dessus, un petit peu de romarin sur une base d'orange. Et ça, en fait, tu as du monde ce soir à la maison. Tu offres des fleurs à ta femme, mais tu offres des fleurs qui vont pouvoir se manger, quoi.
J'allais dire, les amoureux, arrêtez de vous offrir des fleurs. Non, bah, offrez les deux.
Offrez
les deux.
Et en plus, c'est beau. J'adore. Ça sent bon et ça se mange. Ah ouais. Voilà.
J'ai l'impression que Eric me fait une déclaration, c'est extrêmement surprenant. Ah, c'est hyper beau. Et attends,
voilà.
Eric, tu m'as montré des photos sur ton téléphone tout à l'heure, on va pas pouvoir les montrer. Parce qu'en fait, toi aujourd'hui, tu es formateur.
Oui.
Tu es enseignant dans tous ces domaines, mais tu as une activité personnelle aussi.
Oui, oui, je fais en fait de la création, si tu veux, au niveau des fruits et légumes.
Ouais.
Donc des dînatoires en fait, avec uniquement des légumes crus. Je fais manger des cornets de légumes crus aux gens et je leur fais découvrir des saveurs. Ne serait-ce bon, toi, sûrement, t'as dû en manger déjà des courgettes crues.
Ouais.
Bon, voilà. Mais par contre, des bâtonnets de radis, des radis meat, des blue meat, des green meat, des pink meat, ou de la betterave shioga ou de la betterave golden.
Ça non.
Voilà. Et ça, c'est fabuleux.
Moi, j'ai vu des photos de tes créations, des bouquets de fruits, de légumes incroyables.
Ah oui, la création avec les radis.
Voilà, c'est fou.
Uniquement une simple mode de radis, incroyable. Avec un savoir-faire de découpe, tout simplement, parce qu'on va respecter le produit. Et en respectant le produit, tout simplement, on va le mettre en présentation au niveau d'une table pour faire un décor, pour donner donc l'attrait à l'œil.
Ouais.
Mais après, ce produit-là, tu peux le consommer. Tu peux le consommer. Une petite sauce blanche à côté avec un petit peu d'estragon, un petit peu de citron.
Et là, ce métier-là, on pourrait le qualifier comment de confectionneur. Tu as un atelier de confection, je crois.
Un atelier de confection. Et là, aujourd'hui, on cherche à devenir artisan primeur.
Oh, regarde, ils sont allés chercher des... Incroyable, en régie, ils sont allés chercher des...
Ah, ouais, c'est top.
Des images.
Et ça, tu vois, ça, c'était bon, la promotion en fait, de la pomme. Et à Noël, j'avais fait un atelier avec la pomme cœur de reine.
Et comment vous avez fait pour récupérer les images?
La pomme en vie.
Ça, ça a bossé.
Ah, mais il y a les réseaux.
Non, mais attendez, ça a bossé. Mais ils ont trouvé les images, mais c'est incroyable.
Et là, c'est du direct, donc du coup.
Ah oui.
Mais voilà, c'est top.
T'as vu?
Ah ouais. Et si tu veux, en fait, on est le dernier métier alimentaire à ne pas être dans l'artisanat. Et aujourd'hui, Saveur Commerce, notre fédération, fait tout pour rentrer vraiment dans cette action et de devenir des véritables artisans. Mmh. On sélectionne. On affine.
Ouais.
Chez moi, tu peux trouver en fait une poire à consommer aujourd'hui ou à consommer dans deux ou trois jours, comme l'avocat, comme la pomme, ainsi de suite.
Comme le fromage.
On assemble des corbeilles de fruits,
ouais.
On transforme, hein, donc tout ce qui est aujourd'hui, ce genre de choses, tout ce que tu as vu. Ouais. On est vraiment des véritables artisans en fait des fruits et légumes.
Et comment tu es tombé, alors pas dans la marmite, mais dans la corbeille du coup, fruits et légumes, comment tu es tombé dedans? Parce que je crois qu'il y a eu un détour par la comptabilité. Tu as une formation de comptable.
Oui. Et j'avais dit, je ne ferai jamais ce métier.
Pourquoi?
Et...
Parce qu'il y avait une histoire familiale avant,
oui,
ou pas?
Malheureusement, j'ai perdu papa très tôt et ouais. Il a fallu se resserrer des coudes. Et je suis petit-fils et fils de primeur. Et
là aussi, une histoire familiale.
Voilà. Qui te ressemble un peu.
Ah oui, bah oui.
On va tout dévoiler. Mais, et en fait, j'avais l'appartement qui était au-dessus du magasin. Et en fait, on vivait au rythme des arrivées des produits. À la saison du melon, on avait l'odeur du melon qui montait jusqu'à l'appartement.
Tu m'as raconté tout à l'heure qu'il y avait les arrivées d'artichauts parfois au milieu de la nuit.
Oui. Hein,
et toute la famille se levait. Même quand il y avait école le matin,
absolument.
Pour débarquer le camion. Quoi.
Absolument, c'était ça.
Après, on se recouchait.
On se recouchait
et après, et on se relevait.
Et après, on donnait un coup de main aux parents avant d'aller à l'école pour sortir l'étalage du matin. Ouais. Et voilà. Et ça, c'était.
Donc finalement, dans un premier temps, c'est pas vers ce secteur que tu te diriges. Peut-être parce que t'en as vécu le côté le plus dur.
Voilà.
Et pourtant, il va te rattraper un moment.
Et après, il va me rattraper parce que tout simplement, j'ai trouvé en fait pour moi de l'importance avec ce produit vivant et avec ce respect, comme je disais tout à l'heure, des producteurs. Un producteur, en fait, il est pas dans ses champs que deux jours avant la production. Il est dans ses champs tout au long de l'année.
Ouais, bon, on en parlait avec une productrice.
Mais voilà.
De pêche, de nectarine, tout à l'heure de l'abricot. Le travail à l'année, il est incroyable.
Et si tu veux, nous, on est les derniers maillons de la chaîne alimentaire par rapport donc à la distribution, et on doit donner cette information en fin de compte aux clients pour un juste prix, tout simplement aussi, hein, pour valoriser le travail qui est fait. Moi, c'est le mot respect avec un grand R, quoi.
J'ai une dernière question. Tu es comptable de formation. Est-ce que tu es ton propre comptable pour ton entreprise? Ou est-ce que tu en as le temps, ou est-ce que tu fais appel à un...
Alors maintenant, tu sais qu'on est obligé d'avoir des experts, des commissaires aux comptes.
Ça ne peut pas être toi-même.
Voilà. Et bien, en fait, on ne peut pas être partout. Moi, je préfère vraiment être au contact avec les gens, près des producteurs, prendre le temps, en fait, de donner. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, la comptabilité avec l'informatique et avec l'IA maintenant aussi, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années de ça. Mais voilà, moi je vis vraiment pour le produit et surtout raconter une histoire, quoi. Voilà.
Et tu es dans la région de Toulouse, hein, c'est ça, hein?
Ouais, Toulouse.
Et l'entreprise que tu as, notamment de confection, elle est dans le Mines, hein,
tout à fait, sur le Mines de Toulouse. Et donc, alors, c'est pas forcément une entreprise qui est directement ouverte au grand public, parce que aujourd'hui, j'ai passé autre chose. J'ai tenu un magasin pendant à peu près une quarantaine d'années sur exactement Muret, près de Toulouse. Okay, voilà. Okay. Et donc, aujourd'hui, je me suis donc plutôt dans la formation. Donc, j'ai quand même toujours un atelier de confection pour être près des produits et pour avoir cette sensibilité-là. Et je fais aussi du conseil auprès des entreprises aussi pour les monter en compétences, pour leur donner un petit peu ce savoir, ou tout simplement pour leur dire, voilà, tiens, moi je sais ce que c'est d'avoir la tête dans le guidon pendant des années, je peux venir avec mon œil à moi et vous dire, tiens, voilà, moi, ça, on peut le faire différemment, on peut le faire mieux pour le confort de tous et puis à faire avancer la profession. Voilà.
Mais d'ailleurs, il y a une certaine logique quand on est passionné et qu'on devient expert d'un secteur, à un moment d'aller vers le conseil pour accompagner et aider les autres. Hier, on était avec Tony Boulanger,
oui.
Tony Doré, qui est incroyable, donc qui est boulanger, et qui aujourd'hui, l'essentiel de son travail, c'est un travail de conseil auprès des restaurants, des grands restaurants, des groupes, d'autres boulangers pour les accompagner sur le choix des pains, des farines.
Pour moi, c'est essentiel.
C'est ça.
C'est essentiel. En plus, bon, voilà, ce travail de transmission. Alors, même un état meilleur ouvrier de France, si tu veux, c'est...
Toulouse, ça a provoqué des choses, hein.
C'est vrai?
Toulouse, des petits cœurs. Muret, j'habitais là-bas quand j'étais petit.
Ah, voilà. ça fait plaisir. Tu vois. Ça fait plaisir. Franchement, oui, ben en fait, on est quand même une très grosse région de production, Toulouse. Hein. En fait, Toulouse et l'Occitanie, un gros bassin de production, arboriculture, en pommes, en pompoires, hein, sur la région du Tarn-et-Garonne, en arboriculture aussi plutôt l'ex-Languedoc-Roussillon. Non, on est bien en Occitanie. Hein. Il faudra que tu viennes, Samuel.
Oui, ben il faudra. On s'est dit qu'on irait du côté de Toulouse avec Joe.
Avec grand plaisir. On t'ouvre les portes du grand marché.
Et je profite d'avoir Eric avec moi pour rappeler que tous les fruits et légumes qui sont utilisés ici pour l'industrie du salon, ils sont donnés à la fin de la journée à des associations, à des banques alimentaires, ouais. Précisément de la région Île-de-France, circuit court, pour que ces fruits et légumes qui sont pas abîmés, hein, on les soit distribué aux banques alimentaires. Voilà, il n'y a rien de perdu.
Et tu sais, en fait, tout à l'heure, on parlait du mot respect. Ouais. C'est pour justement ça. Le fruit et légume, il est fait pour être consommé. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut s'en servir pour des animations, pour des choses comme ça. Mais on fait en sorte, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à l'arche que j'avais fait sur les halles à Paris.
Ouais. Hein, une arche incroyable.
Une arche incroyable. C'était pour le mois des fiertés avec Interfell sur la campagne Jamais Trop.
Je ne sais pas si Iris peut trouver éventuellement.
Oui, il va trouver, il va dénicher.
C'est une arche incroyable, multicolore, pour la marche des fiertés, qui était incroyable, qui était faite.
C'était au mois de juin, il me semble.
Elle est gigantesque.
Ou mai. C'était mai.
Elle est gigantesque.
Voilà. Et en fait, ben, tous les produits, c'est moi qui les ai sélectionnés pour que, de façon à ce qu'ils restent en fait en place et qu'ils ne soient pas touchés, qu'ils ne soient pas piqués, pour que les banques alimentaires puissent les récupérer.
Juste après.
Et là, c'était en fait une association de jeunes étudiants qui avait récupéré tout ça. Et voilà. Bon. Et là, on est dans cette marche respectueuse. On fait de l'animation, on fait de la promotion. Notre métier, il a besoin de visibilité, il a besoin, en fait, de compte. Je dis souvent, on est un métier tellement essentiel qu'on en est transparent.
Oui, qu'on nous oublie un petit peu, quoi.
Voilà, on nous oublie un peu.
D'où les formations qui sont arrivées un petit peu tardivement.
Voilà.
Bah, grâce à toi, j'ai appris qu'il y avait des MOF en primeur et qu'il y avait des CAP maintenant aussi.
Eh bien, écoute.
Et que c'est le début d'un processus.
Tout à fait. Merci, et ça, à valoriser à fond.
Prends soin de toi.
Samuel, merci beaucoup.
À bientôt du côté de Toulouse, peut-être.
Ça marche, avec grand plaisir.
Merci. Au revoir. C'est vous. Bon, je surveille. On l'est mis à 2h30 déjà. Waouh. Ça passe vite quand même, hein. Je disais à quelqu'un tout à l'heure qui connaissait pas l'univers de Twitch, quand je lui expliquais qu'un stream c'était au moins 3 heures, il disait mais c'est long 3 heures. Je dis mais parfois 3 heures ça passe comme 30 minutes parce que quand il y a des choses sympas à faire ici ou à dire ou à écouter comme ici, ça passe très très vite. Là par exemple Eric, moi j'étais passionné d'apprendre qu'il y avait des meilleurs ouvriers de France, des diplômes qui encadraient maintenant ce métier de primeur. Ça je l'ignorais complètement. Je crois qu'il nous reste un dernier invité, Joe. C'est ça? Ok. C'est la Tour Eiffel?
Voilà, Tour Eiffel.
Il reste pas un dernier invité?
Oui, si. En fait, tu sais pourquoi on le fait? Parce que comme il y a beaucoup de monde autour de nous, là-bas, je sais qu'on
est
un peu plus tranquille.
Alors, on va du côté de la Tour Eiffel pour notre dernier invité de ce stream. Hein. Et puis, c'est un endroit aussi où on s'est un peu plus au calme, parce qu'il y a la Tour Eiffel, elle est protégée. Let's go. C'est incroyable. Mais on dirait moi.
Mais oui.
Mais c'est fou. Mais comment il s'appelle?
Il s'appelle Franck. Je ne sais plus. C'est le nouvel évêque de Chalon.
Mais c'est génial.
Javary.
Mais si ça se trouve, c'est moi. Ça se trouve, c'est la même. C'est peut-être la même personne.
Non,
pas. J'ai un évêque à Chalon. C'est mon sosie. Ouais, attends. J'arrive. Et on peut montrer la caméra? Attendez. Il y a un évêque à Chalon. C'est moi. Allez, regardez. C'est moi, c'est la même personne. On fait une photo? On y va? Putain, je suis avec. Incroyable. C'est moi, c'était moi en fait.
Incroyable.
Non mais rigolez pas, c'est vraiment moi en plus. Je pensais cacher cette activité encore longtemps. Et bien non, cette dame a pop avec la photo. Et voilà. C'est moi dans 15 ans. Non, c'est moi. Là, il y a du monde. Hein. 600 000 personnes attendues au total sur toute la durée du salon. C'est assez fou. Là, on se ferait un passage, bonjour, dans la foule. Ah,
Chloé.
Comment ça va, Chloé? On va te donner un micro. Oui. Oui, promis. Chloé, ça, le micro, pardon. Comme ça, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, et plus tu le rapproches de ta bouche,
oui.
Tu peux même le coller contre le menton, et plus on t'entendra. Chloé, merci d'être avec nous.
Merci.
Tu vas bien?
Ça va.
Chloé Piccoli, voilà, rien à voir avec le grand acteur.
Non, malheureusement.
Mais le patronyme est magnifique. Alors, toi aussi dans le secteur des fruits et légumes?
Oui.
Mais dans le monde de la grande distribution.
C'est ça.
De toi, tu évolues dans le secteur de la grande distribution depuis
8 ans.
La fin de tes études.
Oui, c'est ça. Bah, j'ai fait mes études en grande distribution.
Études de quoi?
Management.
Management, voilà. Oui. La grande distribution. Tout de suite sur les fruits et légumes, non?
Non, j'ai fait du non alimentaire, j'ai fait du produit grande consommation.
Ouais.
Et après, ma patronne m'a fait confiance et m'a donné le rayon du fruits et légumes.
Et c'est un secteur qui t'intéressait ou pas?
Ah bah, je connaissais pas du tout.
Non. Et qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors au début, c'est assez impressionnant parce
Pourquoi
que c'est un gros secteur d'un hypermarché.
Ouais, il y a du volume.
Il y a des grosses équipes.
Ouais.
Et en fait, plus j'avançais, plus j'aimais le produit. Et forcément, c'est sympa. À travailler, c'est cool.
Et puis c'est un produit fragile, c'est-à-dire que tu parlais des produits que tu as travaillé avant. Là, c'est un produit dont il faut prendre soin.
Oui, en fait, c'est totalement différent parce que on est sur de l'ultra frais. C'est tous les métiers de bouche artisanale. En fait, on est sur de l'ultra frais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça évolue rapidement. Il y a une grosse saisonnalité, donc c'est hyper intéressant. Et ça bouge tout le temps, c'est hyper polyvalent.
Est-ce qu'il faut être à l'écoute des clients? C'est-à-dire, est-ce que les clients émettre des envies, des souhaits? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les conseille? Est-ce qu'on les accompagne?
Alors oui, déjà j'ai mon équipe qui est formée, qui sont qui ont eu des diplômes donc de CQP primeur, pardon. Okay.
Ah bon, on en parlait à l'instant avec Eric. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est...
J'en ai 4 dans mon équipe qui sont formés.
Et c'est un diplôme qui existe depuis pas très très longtemps, en fait. Donc voilà.
Mais chaque année, on essaye d'envoyer un de nos collaborateurs en CQP pour que, voilà, ils soient professionnels et qu'ils puissent mieux conseiller nos clients. Et oui, ils ont des demandes. Après, voilà, on essaye de répondre à toutes leurs demandes, que ce soit en saison ou en contre-saison. Mais voilà.
Idéalement en saison.
Oui, idéalement en saison
et en français.
Voilà, mais oui, on essaye de répondre à leurs attentes. Après... C'est un client sur deux qui achète du fruits et légumes dans un hypermarché, donc
c'est beaucoup.
Et voilà.
Je vous lis un petit peu le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une question que je me suis posée avant de préparer ce stream, c'était la part de la grande distribution dans la distribution de fruits et légumes en France. Je vais essayer de te coller. Est-ce que tu sais à peu près? Grande distribution et on va dire primeur, quoi.
Je pense qu'on a une grosse part quand même parce que tout le monde fait ses courses dans un hypermarché, enfin une grande partie.
Tu veux tenter un pourcentage ou pas?
Pas du tout. Je sais pas. Joe,
t'as une idée? Tu sais, toi, Joe. On est sur autour de
70%. Ah, j'avais dit 80.
Ouais, 70%. On a été, j'ai un dernier chiffre, en 2021, 67%, mais qui a augmenté encore depuis.
Oui.
Donc vous comptez à peu près 70% de la.
Bah, en fait.
C'est une sacrée responsabilité, hein.
Alors, c'est une grosse responsabilité, mais on sait que voilà, il y a de plus en plus de petits commerces qui ferment, des boucheries, des poissonneries, etc. Ouais. Donc, la grande distribution, forcément, il récupère ces clients-là et on doit leur.
Parfois, c'est salarié aussi.
Oui, bien sûr. Mais on a la responsabilité, du coup, de satisfaire ces clients-là qui allaient de base chez des primeurs ou chez des poissonniers, enfin des petites boutiques, des artisans, et de leur proposer la même qualité que. Qui retrouvaient chez leur.
Tu parles en connaissance de cause, parce que je crois qu'avant les fruits et légumes.
Non, c'est pendant les fruits et légumes.
Ah, il y a eu en plus.
Oui.
Parce que je sais que tu t'es occupé aussi de poissons.
Bah, actuellement, je m'occupe aussi de la poissonnerie. Et avant, je m'occupais aussi de la
boucherie. Le poisson, c'est toi aussi?
Oui.
Alors, c'est intéressant parce que finalement, les problématiques, elles sont un peu les mêmes. Produits fragiles,
la fraîcheur. Oui. Et satisfaction client, bien sûr.
Aussi, d'accord.
Mais c'est hyper intéressant. En fait, le produit brut. Que ce soit le poisson ou le fruits et légumes, c'est hyper intéressant à travailler. Je pense que ça devient une passion petit à petit.
Ouais. En plus, c'est un produit qu'il faut travailler, effectivement.
Oui, on peut transformer. Non, franchement, c'est hyper intéressant et on ne se doute pas qu'en grande distribution, on peut travailler des produits comme ça ou aller dans des métiers aussi comme ça.
Je vois des échanges sur la grande distribution et sur les commerçants. Je vous lis actuellement. Ouais. Oui, on est en direct du salon de la culture. Oui, je confirme. Oui. Donc là, tu vas travailler dans différents secteurs. Tu te vois évoluer dans autre chose que le frais à l'avenir ou t'es un peu attaché à cet univers-là?
Oui, je suis très attaché au métier de boucher. Oui,
c'est vrai.
Ouais, j'adore. Je me vois en tout cas en grande distribution dans un hypermarché. Je me vois pas faire du produit de grande consommation ou du non alimentaire. J'adore
c'est
le.
C'est difficile de revenir en arrière.
Ouais. Une fois qu'on a touché au métier de bouche, généralement, on ne les quitte pas. Quoi.
Est-ce qu'il évolue? Est-ce que la façon dont on vend du primeur, en grande distribution dans le commerce de façon générale, est-ce qu'elle évolue dans la présentation, dans le choix des produits?
Alors oui, parce que les clients nous poussent toujours à faire mieux et on a aussi forcément de la concurrence autour. Et donc, on s'inspire tous un peu. C'est une grande collectivité, quoi. Donc, on s'inspire tous de chacun des uns des autres.
Sans dévoiler tous les secrets, mais ces dernières années, par exemple, qu'est-ce que tu as mis comme nouveauté en place, en avant?
Il y a des nouvelles variétés déjà qui sont arrivées.
Ouais, par exemple.
Je pense aux raisins avec les goûts caramel, popcorn, etc. C'est des nouvelles variétés.
Goût caramel?
Ouais, caramel, ouais. Bonbon.
Quoi? Les raisins, goût. Le chat?
Eh oui.
Non, mais pourquoi je connais pas ça, moi? Toi, tu as vendu du raisin goût caramel?
Ouais.
Ça existe?
Ouais.
Mais le goût caramel, il est produit naturellement.
Oui, naturellement, bien sûr. Mais par contre, c'est super parce que pour les enfants, ça peut faire un produit de substitution.
Je veux que le chat me dise ce qu'il pense du raisin goût caramel. Moi, j'ai découvert le raisin sans pépins. À mon époque, ça n'existait pas. Les enfants, tu leur donnes.
Pastèque aussi sans pépins.
Oui, pastèque sans pépins. Ok, ça, je ne connaissais pas. Raisin goût papa. Non, ça n'existe pas, ça, raisin.
Si, si.
Ça
fait partie des droits.
Le raisin goût barbapapa? Mais Joe, mais où allons-nous? Mais ça existe, mais il y en a qui connaissent. Incroyable. C'est fou ça. Attends, il y a d'autres nouveautés comme ça
J'ai l'impression que je suis pas du tout. C'est ce que j'ai en tête.
Pas du tout à la page, quoi.
Non, mais c'est. Mais en vrai, c'est le produit de substitution pour les enfants, c'est parfait.
Incroyable.
Ils mangent des fruits et ils mangent pas de bonbons.
C'est pas mal ça.
Ouais.
Ok, je tombe de l'arbre. je viens de découvrir. Joe, tu connaissais?
Oui.
Non plus. C'est votre papa, Chloé.
Oui.
Votre papa, il est là et il connaît pas les raisins goût caramel?
Non, je l'en ai jamais ramené.
Attendez, mais ça va. Comment c'est quoi votre prénom?
Hervé,
ça va pas du tout. Il faut que vous demandiez des raisins.
Je fais des efforts, mais pour l'instant, non.
Mais Chloé, ça va pas du tout. Il faut incroyable. J'ai découvert quelque chose. Il manque plus que le raisin, goût, rhum et la boucle est bouclée. Non, pas pour les enfants, non.
Non, pas pour les enfants.
J'entends des dingueries, on n'a pas ça en Suisse. Ah oui, mais en France, on a. Voilà. Ça doit pas être tellement.
J'ai jamais goûté, moi, personnellement.
Mais Chloé, mais il faut.
Je sais, on goûte tout au début Chloé. De saison, mais celui-là, je ne l'ai pas goûté.
Il a échappé.
J'aime pas le caramel.
vivement les haricots goût frites. Mais on vient de lancer quelque chose, là. Les enfants qui n'aiment pas les haricots. Des haricots goût frites. En tout cas, c'est plus pertinent que des frites goût haricots. Oui, mais le goût. Mais le raisin, il est. En tout cas, c'est plus pertinent que les frites goût.
Oui, haricots.
Quand est-ce qu'on va à la buvette?
Ah, la variété de raisin dépourvue de manipulation chimique n'est pas génétiquement modifiée. Et résultat incroyable. Alors, parce qu'il y a un débat du coup, est-ce que c'est des OGM? Non, justement.
Après, moi, c'est pas
donc,
mon métier.
Dis pas du tout. C'est le résultat de croisement de cépages très sucrés découverts par. Oh là là, c'est même précis, regarde. Par
le généticien. S'il vous plaît, spammez la buvette dans le chat.
David Ken, International Fruit Genetics de Californie. C'est des croisements. Donc, c'est pas.
Non, du tout.
Donc, on y va, quoi. Ah sinon, il y a El Espadon qui propose un raisin goût raisin. Le truc révolutionnaire. Bon, Chloé, un grand merci. Toi, tu travailles dans quelle région? Région parisienne, je crois.
Oui, et le Val d'Oise.
On n'a pas le droit de faire la publicité d'une marque, mais on peut peut-être dire dans quelle commune c'est, peut-être, quelle ville.
Taverny.
À Taverny.
Oui, il y en a plusieurs, mais c'est le plus grand. Bon.
Voilà. Donc, c'est le plus gros de Taverny. Bon, après, il n'y a pas que la taille qui compte. Mais bon, peu importe. Joe voulait absolument que je le dise dans le stream. Aujourd'hui. Si, tu voulais que je le dise. Oui, sur la Tour Eiffel, mais.
La buvette dans le chat.
Il voulait que je le dise. Chloé, un grand merci.
De rien.
Plein de belles choses.
Merci.
Voilà, puis tu m'as fait découvrir le raisin goût caramel.
Ah, c'est le principal.
Ça, je ne l'oublierai jamais. Merci aussi, Hervé. Venez, je vous emmène voir la fameuse Tour Eiffel. En fait, Joe voulait absolument qu'à propos de cette Tour Eiffel, je vous dise, il n'y a pas que la taille qui compte. J'ai dit non, Joe. On peut pas. Et puis finalement, je l'ai fait. Venez. Elle est là. La Tour Eiffel. La tour fruits et légumes. Regardez, je disparais. Regardez comment elle est belle. Regardez ça. Comment ça, la buvette? Comment ça, la buvette? Je comprends pas. Quelle buvette? Tout le monde me dit la buvette.
Non.
Si, regarde.
Non.
La buvette.
Non, j'y crois pas. Il dit ça?
Buvette au vinasse. On a soif. Mais pourquoi? Je pense que le chat s'est passé le mot.
La buvette dans le chat.
C'est
pas la buvette
toi,
dans le chat.
C'est toi qui a lancé ça? C'est toi? C'est toi, il est con. Quelle heure il est? 12h36, c'est pas. C'est l'heure de la buvette. Attends, mais ça va pas. Et il est temps que ce live se finisse. Les amis, un grand merci. Je range mes notes. Les amis, je voudrais remercier toute l'équipe d'abord. Remercier l'équipe des fruits et légumes frais qui nous a permis de faire ce live. Voilà. Remercier Joe qui était à la réalisation, qui était à la poussette. Baptiste qui nous a accompagné au son. Baptiste qui était déjà venu avec nous sur des streams dans le passé qu'on a retrouvé. Voilà, parce que maintenant on est des professionnels. Iris qui était à la régie, s'il vous plaît. Voilà. Et qui, d'après Joe, a pas beaucoup travaillé, mais d'après moi, a beaucoup travaillé. Si, tu l'as dit. Je t'ai entendu. Et je me remercie aussi parce que j'ai beaucoup donné. Voilà. On pense jamais à se remercier soi-même. Je vous remercie, vous, d'avoir été avec nous. On se retrouve, alors, peut-être pas ce soir, parce que demain, j'ai question pour un champion qui reprend. Mais vous me connaissez, il y a un monde où je lance un live vers 21h quand même. Après, de quoi, je sais pas, parce que Valo, j'en peux plus. C'est un enfer. Plus je joue, moins je suis bon. On verra bien. Rendez-vous ce soir au plus tôt. Demain soir au plus tard, parce que demain, question pour un champion. Mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de revues de presse, mais il y aura beaucoup de gaming tous les soirs, bien sûr. Je crois que l'ami Shones est en live. Il a lancé un live à 12h30, je crois, au salon, s'il n'est pas en retard, avec Sunday et et DFG. Voilà, donc ils sont ses invités. Il est en direct du salon, je ne sais pas où il est exactement. N'hésitez pas à aller, aller voir son live parce que ça va être sûrement très sympa. Prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux et mangez des fruits et légumes frais. J'ai été incroyable. À très vite. Ciao, ciao.